Je vous souhaite une très belle journée en ce 15 décembre. Il est 6h57. Tout de suite, c'est le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre. Ben, je vous retrouve à 5h du matin demain pour vous informer. C'est tôt, mais vous allez voir, c'est bien. Venez.
C'est très bien. Dès 5h, 5h moins 2, moins 3, même si je dis pas de bêtises. Sébastien Krebs, merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis 5h moins 2 ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Mardi 15 décembre 2020 sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changé. C'est l'événement ce matin. C'est l'événement et c'est sur Europe 1. Le Premier ministre Jean Castex, invité de la matinale à 8h15. C'est un jour important. L'allègement du confinement, mais le retour du couvre-feu, l'organisation de la campagne de vaccination, les enjeux, les mesures, les restrictions sanitaires si présents à 10 jours de Noël seulement. La question économique, bien sûr. Comment se relève-t-on de cette année 2020? Quelle perspective pour les mois à venir alors que de nombreux entrepreneurs, eux, sont toujours à l'arrêt? Et puis, la sécurité des Français au programme, évidemment. La loi sécurité globale, la lutte contre le séparatisme, invité exceptionnel d'Europe Matin, Jean Castex répondra aux questions de Sonia Mabrouk en direct, en longueur, jusqu'à 8h45. Ce matin, c'est à la une également l'annonce du président de la République aux citoyens de la Convention pour le climat. Annonce surprise d'un référendum pour introduire la défense du climat dans la Constitution. L'édito politique de Nicolas Bétou, le référendum après la Convention, le grand débat. Emmanuel Macron se cherche sur le terrain de la démocratie directe. Et puis d'environnement, il sera question à 7h40 aussi. Mon invité veut changer le monde et elle s'y prend tôt. Retenez bien son nom, Geetanjali Rao, américano-indienne de 15 ans. Elle vient d'être désignée enfant de l'année par le magazine Time. Kid of the Year, c'est une première. Elle a inventé un appareil qui détecte la pollution au plomb dans l'eau. Elle avait 12 ans. Plus récemment, pour les ados, elle a développé une application contre le harcèlement en ligne. Son projet, elle veut donner le goût des matières scientifiques aux enfants de son âge. C'est sa première interview en France, Geetanjali Rao, Kid of the Year, à 7h40, dans le tête-à-tête Europe Matin. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Mathieu.
C'est l'heure de la météo.
On se couvre ou on s'abrite? On se couvre, non pas seulement, parce que les températures seront de l'ordre de 10 à 14 degrés cet après-midi, donc vous voyez, il ne fera pas trop froid. Donc vous vous couvrez moyennement, mais abrité, oui. Alors là, parce qu'il pleut. Hein. Alors il pleut sur à peu près 500 km de large, sur la France, et c'est quand même, ce sont parfois de bonnes pluies. Donc les pluies vont cesser, parce que bien sûr, la perturbation est en train de se décaler vers les régions de l'Est, mais lentement, mon Dieu. Alors là, le littoral atlantique, le littoral de la Manche sont déjà libérés, seront prochainement libérés, c'est-à-dire à l'heure du repas, hein. Le nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre, le Limousin, l'Aquitaine et le Béarn. Et puis alors, toute la journée, peu ou prou, nous aurons de la pluie sur la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, la Franche-Comté, le bassin méditerranéen, le Midi-Pyrénées, des pluies fortes aussi sur les Cévennes et sur la vallée du Rhône. Voilà pour une journée où il va pleuvoir.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
Moi, je suis arrivée avec une colère, avec des déceptions. J'avais cette sensation de détricotage. Là, je repars avec des réponses.
L'urgence climatique dans la Constitution, Emmanuel Macron propose aux Français d'en décider par référendum. Il l'a annoncé hier aux membres de la Convention citoyenne. Nouvel épisode de la série Déconfinement. Aujourd'hui, place au couvre-feu à 20h. Une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs qui feront moins de ventes à emporter. Dans ce journal, la pêche, gros dossier qui fâche dans les négociations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nous serons de part et d'autre de la Manche pour voir ce qu'en pensent les professionnels. Et puis la bataille du calendrier en vue du mondial de rugby en France. Les villes se disputent les plus belles affiches.
Juste après ce journal, l'Union européenne qui tord le bras aux géants du numérique, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, les All Blacks pour le 15 de France, meilleur tirage possible pour Virginie Fulpin dans l'édito sport avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La défense du climat et la préservation de l'environnement pourraient donc figurer dans la Constitution. C'est l'annonce choc d'Emmanuel Macron hier soir.
Si l'Assemblée et le Sénat disent oui, la réforme sera soumise au référendum. C'était l'une des 149 propositions de la Convention citoyenne. Deux de ses membres se félicitent qu'elle ait finalement été reprise par le président.
On a mis le président au défi justement de faire ce référendum sur la modification de l'article 1. Parce que nous, on considère que les Français doivent pouvoir donner leur avis sur à quel niveau ils mettent l'environnement, la biodiversité, le climat dans leur quotidien et à quel niveau ils veulent mettre dans leur pays. Donc voilà, on demande un référendum sur cet article 1 et le président a simplement répondu oui. Donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là.
Moi, je suis arrivée avec une colère, avec des déceptions. J'avais cette sensation de détricotage. Là, je repars avec des réponses. En tout cas, ça a été des réponses entendables, avec des arguments que j'avais pas imaginé, donc c'est du plus. Après, je resterai vigilante.
Voilà, des propos recueillis par Claudia Bertram.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Personne ne s'attendait à cette annonce hier soir, pas même les membres de la convention. Pour vous, c'est un coup de poker du président, un quitte ou double?
Et oui, effectivement, on le sait, hein, Emmanuel Macron aime prendre des risques, piégé par l'ambiguïté de sa promesse de reprendre toutes les propositions de la convention citoyenne sans filtre, hein, c'était les mots du président, je vous rappelle, eh bien, il fallait frapper fort. Il a donc abattu sa dernière carte pour calmer la colère des membres de cette convention. L'enjeu est de sortir de ce face-à-face avec les 150 citoyens à qui il a confié le soin de réfléchir sur la transition climatique. Je vous rappelle, c'était son idée à la sortie du grand débat après la crise des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui, eux d'ailleurs, réclamaient un référendum, une demande écartée à l'époque par le président de la République. Aujourd'hui, la situation est différente. Il s'agit de reconquérir l'électorat écologiste pour 2022. Mais ce référendum pour inscrire le climat dans la Constitution, c'est aussi le risque de voir transformer ce scrutin en vote pour ou contre Emmanuel Macron.
Voilà, quitte ou double de qui nous est résumé par Mickaël Darmon, le chef du service politique d'Europe 1. La politique encore, avec ce sondage Odoxa pour la presse régionale dévoilé ce matin. Il brosse une image assez peu flatteuse du Premier ministre Jean Castex. 55% des Français ne le jugent pas compétent, 65% pas charismatique et même 72% ne lui voient pas d'avenir en politique.
Le Premier ministre, ce matin, sur Europe 1, c'est l'événement, je vous le disais, de 8h15 à 8h45. Une demi-heure avec Jean Castex, interview de Sonia Mabrouk tout à l'heure sur Europe 1. Il est 7h03. On oublie les attestations dans la journée. Aujourd'hui, on peut désormais se déplacer comme bon nous semble.
Et oui, en revanche, après 20h, on reste à la maison. C'est le couvre-feu, une mesure qu'appréhendent les restaurateurs. Fini les plats à emporter après cet horaire. Seules les livraisons restent autorisées. Ça veut dire encore moins de clients à Strasbourg. Arthur Elmbacher.
Le peu qui lui reste, c'est ça, la vente à emporter.
Très souvent, le gros rush, c'est entre 20h et 21h.
C'était le rush, puisque dès ce soir, plus le droit de sortir. Après 20h, interdiction d'aller chercher son plat dans le restaurant de Yann au centre-ville de Strasbourg.
J'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à ça près. Pour nous, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle.
Non, stop, pourquoi ?
Voilà ce que Matteo de la pizzeria chez Gepetto pense, lui, du couvre-feu.
C'est vraiment très, très tôt. Avant 20h, 4-5 pizzas, 2-3 pâtes, mais après 20h, c'est plus. C'est ça le problème. S'ils nous coupent encore ça, c'est foutu, quoi.
Les gens vont peut-être se rabattre sur les plateformes de livraison à domicile.
Ils prennent 30% quand même, hein. Donc, une pizza emportée coûte 7 euros. Si elle est en livraison, moins 30%, ça fait 2,10 euros de moins, donc ça ne paye pas beaucoup.
Il y avait une case pour aller chercher à manger, ils pouvaient laisser la case pour aller chercher à manger.
Jacques Chomantowski de l'UMI 67 voudrait modifier la nouvelle attestation de sortie.
On ne reste pas dans le restaurant, on ne reste pas dans la rue, je trouve ça grotesque, voilà. Donc ce que j'aurais aimé, c'est que ça soit au minimum 21h30.
On est les seuls, dit le restaurateur, à être moins bien traités après le confinement que pendant. Strasbourg, Arthur Elmbacher, Europe 1.
Et à propos de la nouvelle attestation, pour bouger après 20h, il faudra une bonne raison professionnelle ou médicale, notamment. De son côté, le monde de la culture dénonce une mise à mort et réclame le droit de rouvrir salles de spectacle, musées et cinéma. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes, notamment à Paris.
Bataille navale en vue entre pêcheurs français et britanniques. C'est le dossier qu'on ouvre ce matin dans ce journal.
Oui, la pêche est en effet le gros point de blocage dans les négociations qui se tiennent en ce moment entre Londres et Bruxelles. Les Français effectuent 30% de leurs prises dans les eaux britanniques et même 90% pour les chalutiers des Hauts-de-France. Le sujet est hypersensible de part et d'autre de la Manche. Johanna Chabas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Hastings, port de la côte sud de l'Angleterre. En cas de no deal, dès le 1er janvier, les Anglais comptent déployer la grosse artillerie.
Oui, 4 patrouilleurs de la Royal Navy, des navires de 80 mètres de long, sont déjà prêts. Ils ont tout leur armement, même s'il n'est pas prévu qu'ils l'utilisent sur les chalutiers de l'Union européenne. Mais la marine aura le pouvoir d'arrêter, d'inspecter et même de confisquer les bateaux européens. Graham Dorswell, pêcheur et fondateur de l'association des chalutiers ici, espère que ce projet se réalisera.
Je vois mal la marine harponner des chalutiers français. Mais ils ne peuvent pas avoir le droit de juste ignorer la loi. Ça fait 4 ans qu'on prévient qu'on quitte l'Union européenne. Les autres pêcheurs européens auraient dû s'y préparer. Ça paraît peut-être dur ce que je dis, mais s'ils font des choses illégales, alors ils seront punis.
Ces 4 patrouilleurs font en fait partie d'un plan bien plus large de surveillance des côtes britanniques. 14 000 militaires sont prêts à être déployés et des hélicoptères de l'armée pourraient être aussi utilisés.
Johanna Chabas, vous restez avec nous. On va partir à Port-en-Bessin, dans le Calvados, où le moins qu'on puisse dire, c'est que les pêcheurs sont très inquiets. On est côté français, là, on écoute le reportage de François Coulon.
À Port-en-Bessin, ce sont les 10 chalutiers les plus gros, plus de 20 mètres, tarif plusieurs millions d'euros, qui redoutent le no deal, Dimitri Rogoff, président du comité des pêches de Normandie.
tous ces bateaux-là, c'est des bateaux qui pêchent côté anglais plus de 50% de leur temps. En moyenne, c'est 70%, donc ils sont vraiment dépendants de ces zones-là. Ça peut devenir un drame.
Jean-Baptiste Houchard vient d'investir dans un bâtiment hauturier de 25 mètres de long.
C'est très inquiétant. On est vraiment dans l'inconnu et ça fait très peur. Moi, je me suis engagé à hauteur de 3,5 millions d'euros. C'est considérable. Je vois, quand le thon a été interdit en Atlantique, c'est des flottes de bateaux qui ont dû cesser carrément leur activité. Il y a eu des drames terribles.
Et vous craignez ça ?
Bien sûr, on y pense.
Le déploiement dans la Manche de bateaux armés de la Royal Navy passe très mal ici.
Des bateaux de guerre, au moment où on cherche un accord, faire sonner le canon, c'est irresponsable. Il n'y aura pas de bataille navale. On ne tient pas à ce qu'il y ait des accidents. Donc s'il doit y avoir une rétorsion, elle sera à terre, sur les importations. On bloquera les camions pour pas qu'un kilo de poisson anglais touche le sol français.
76% des poissons britanniques sont exportés, essentiellement dans l'Union européenne. Un blocus serait la pierre des ripostes. Port-en-Bessin, François Coulon, Europe.
Alors Johanna Chabas, est-ce que les Anglais ont vraiment peur de ce blocus, peur de ne plus pouvoir exporter leur pêche vers l'Union européenne ?
Oui, c'est une inquiétude. Ici, le pêcheur que vous avez entendu tout à l'heure me dit être prêt à voir des manifestations en France, des cargaisons entières jetées à la mer. Mais selon lui, il y aura toujours une demande pour le poisson britannique. Et donc, au bout de peut-être un ou deux ans, il espère que tout se calme pour à nouveau vendre tranquillement ses prises.
Johanna Chabas, en direct du port d'Hastings, sur la côte sud de l'Angleterre. Manifestation de policiers cette nuit devant l'Arc de Triomphe à Paris. Ils étaient une centaine, gyrophares allumés, pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles aux faciès. C'est les violences policières. Et puis Joe Biden invite l'Amérique à tourner la page. Hier soir, les grands électeurs ont entériné sa victoire à la présidentielle américaine.
Le rugby, le 15 de France, affrontera donc les All Blacks dès la phase de groupe de la Coupe du Monde en 2023. C'est le résultat du tirage au sort d'hier.
Reste à savoir quand le match se jouera, dans quelle ville. Ce matin, on vous emmène dans les coulisses de ce mondial pour découvrir un travail de l'ombre, l'organisation des matchs. Et c'est loin d'être simple. Simon Rubin.
La France doit-elle jouer les blagues d'entrée histoire de profiter d'un formidable produit d'appel pour passionner le public ou, comme le préférait Fabien Galthié, attendre le deuxième ou troisième match ? Cette décision-là sera l'objet d'âpres discussions entre l'organisation et le staff des Bleus. Et ce n'est qu'un exemple. De fait, tout le calendrier va faire l'objet d'une espèce de grande négociation. Chaque ville veut accueillir les meilleures équipes, évidemment, et même les nations participantes ont leurs préférences. Claude Haché, qui gère l'organisation, va devoir arbitrer.
Les Gallois, ils ont envie d'aller jouer à Nantes, parce que la culture celtique, les échanges, donc eux, ça les intéresse. Les Écossais aimeraient bien jouer à Saint-Etienne. Les Irlandais aimeraient bien jouer à Bordeaux. Les Italiens à Nice. On va essayer de mettre en place un Rubik's Cube pour à la fois essayer de donner satisfaction aux équipes, aux villes, qui ont besoin d'avoir des matchs attractifs. Ça, ça va être une discussion animée, hein, c'est sûr, parce que toutes les villes voudraient l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande.
Et par exemple, pour faire accepter à une ville d'avoir un ou deux matchs peu attractifs, eh bien l'organisation lui offrira une affiche de rêve en compensation. Ça marche comme ça, et le calendrier devrait normalement être terminé à la fin du mois.
Simon Rubin, et puis il y a du changement en tête du Vendée Globe. Thomas Ruyant mène désormais la flotte. Charlie Dalin, qui était jusqu'ici en tête, a eu des soucis avec son foil qui permet au bateau de se soulever au-dessus de la mer, eh bien il est désormais relégué à la troisième place.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1, 7h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Une jeune fille entrée dans l'histoire la semaine dernière. Elle a 15 ans, elle s'appelle Gitanjali Rao, elle est américano-indienne. C'est la première enfant à être désignée Kid of the Year, enfant de l'année par le magazine Time. À 15 ans, c'est une jeune scientifique qui combat la pollution des eaux ou le harcèlement en ligne. Elle encourage surtout les adolescents à se tourner vers la science. C'est la première fois qu'elle s'exprime en France. Gitanjali Rao, enfant de l'année 2020 pour Time Magazine, c'est l'invité du Tête à Tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet, c'est dans un instant. Bonjour Vincent. Je ne sais pas ce que vous voyez en studio
Nicolas,
avec nous. Et l'éclairage éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Et bonjour Mathieu.
Vous êtes tous les deux avec nous en studio. Alors Nicolas, l'Europe va créer une nouvelle police, une police pour surveiller les géants du numérique. Et c'est une vraie révolution.
Oui, on peut vraiment le dire. Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, dévoilera tout à l'heure les règles qui, pour la première fois, vont s'imposer aux géants du numérique, car un constat s'impose. Quand l'Europe, ou d'ailleurs les États-Unis, s'attaquent à Google ou Facebook sur le terrain de l'abus de position dominante, eh bien, il y en a pour des années, des procès sans fin qu'on ne gagne pas toujours. Et au fond, ça va très bien à ces géants, parce que pendant ce temps-là, ils tissent leur toile. D'où ce changement radical, impulsé par le commissaire français, qui a su convaincre la Commission et les États membres. Mieux vaut prévenir que que guérir, les GAFA devront se plier à nos règles dès qu'elles seront adoptées tout de suite pour conserver l'accès au marché européen.
L'Europe devient ainsi le premier continent à réguler les géants du numérique.
Oui, vous savez, l'espace géographique physique est régulé depuis longtemps. C'est le cadastre, ce sont les règles de propriété. L'espace maritime, l'espace aérien le sont également. Restait l'espace numérique, car on voit bien que le cadre actuel ne permet pas de réguler les contenus ou de faire cesser les abus de position dominante. D'où des obligations nouvelles qui vont être imposées aux grandes plateformes. De la même manière, par exemple, que les banques ont des obligations de lutte contre l'argent sale et ne peuvent pas accepter des dépôts sans en vérifier l'origine, eh bien, les GAFA devront respecter une série de bonnes pratiques sous peine de sanctions immédiates et très lourdes.
Jusqu'à l'interdiction du marché européen.
Oui, quand même, ça peut aller très très loin. L'Europe crée en quelque sorte une police du numérique. Elle se dote des moyens d'intervenir en temps réel. C'est ça qui est important. Si une plateforme ne respecte pas les règles, il pourra y avoir des audits sur les algorithmes utilisés par les GAFA. Des contenus pourront être retirés très rapidement. Et pour éviter les abus, les plateformes ne pourront plus utiliser les données des entreprises qu'elles hébergent pour les concurrencer. Elles ne pourront plus non plus empêcher à des entreprises d'accéder aux données de leurs propres clients. Ces règles vont maintenant devoir être adoptées par les députés européens et par le Conseil. Il y en a au moins pour un an, disons. Il faut donc s'attendre à un an de lobbying intense de la part des Google, Amazon, Facebook et Apple pour essayer de torpiller ces textes. Mais comme le dit Thierry Breton, je les connais et je les attends de pied ferme. Une autre bataille commence.
Elle sera longue, elle sera rude. Il a un ton très ferme, cela dit, Thierry Breton.
Ah oui, extrêmement ferme.
Il n'a pas l'air de rigoler, pardonnez-moi l'expression.
Exactement.
Non, on va voir ensuite la bataille du Parlement européen, le lobbying, etc. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h15 et Vincent Hervouet est avec nous. Le regard international, Washington qui prend des sanctions contre la Turquie, Vincent. Il est interdit de lui vendre des armes et ses dirigeants sont indésirables aux États-Unis.
Oui, alors ces représailles étaient annoncées depuis que la Turquie s'intéresse au système de défense S-400, le système russe. Elle l'a négocié longuement, s'est fait livrer la première batterie l'été dernier, depuis s'emploie à la tester et à chaque étape, l'oncle Sam l'a mise en garde. C'est à contre-cœur, en attendant le dernier moment, c'est-à-dire le vote de son propre budget de la défense, que l'administration Trump s'est résignée à sévir. Les dirigeants turcs n'ont donc plus les droits de mettre les pieds aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que l'Amérique va les mettre à la porte de l'OTAN. Tant pis pour les Arméniens, les Grecs, les Kurdes, l'Élysée, tous ceux qui aiment détester Erdogan et tous ceux à qui il donne de très bonnes raisons de le détester, les chrétiens d'Irak, les Syriens loyalistes, les Chypriotes, les Libyens de Benghazi, les Arabes du Golfe, les Égyptiens, sans oublier les Allemands, mais ceux-là le détestent en secret.
En quoi le S-400 représente un danger ?
Il paraît que le système est capable de percer les secrets électroniques des chasseurs de dernière génération, les F-35 américains qui ont un nid sur la base turque d'Incirlik et qui équiperont tôt ou tard les armées de plusieurs pays de l'OTAN. Washington a donc répété à Recep Tayyip Erdogan qu'on ne peut pas être dans l'OTAN et fricoter avec les Russes, on ne peut pas être des deux côtés de la barricade, et ça, c'est une logique de guerre froide.
Erdogan est sur tous les fronts, une fuite en avant.
Il est dans la conquête, il est dans la provocation pour se faire respecter à l'extérieur comme à l'intérieur, et s'il s'agit d'OTAN, eh bien, c'est bien parce que les Américains se sont repliés de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Pour autant, faut-il le chasser de l'OTAN ? Ça ferait l'affaire des Russes en déstabilisant l'Alliance, ça ferait l'affaire des Chinois et à leur projet d'Eurasie. Ça ne réglerait rien, ça compliquerait tout. Il ne faut jamais se tromper d'ennemi. Les sanctions, disent Erdogan, qui ne vaut pas non plus se tromper et tromper ses amis.
Merci Vincent Hervouet, le regard international de Vincent Hervouet tous les matins. Je voudrais vous faire écouter une voix à présent, elle s'appelle Sandra Lindsay et c'est la première américaine à avoir été vaccinée contre le Covid. On vous a raconté la logistique, l'impressionnante logistique de la vaccination de masse aux États-Unis. Sandra Lindsay, elle-même personnel soignant, première personne vaccinée aux États-Unis.
Je me sens bien. Je veux donner confiance au public dans l'innocuité du vaccin. Nous sommes en pleine pandémie et nous devons donc tous faire notre part pour y mettre fin et ne pas abandonner si vite. Nous voyons la lumière au bout du tunnel.
La lumière au bout du tunnel. 300 000 victimes du coronavirus aux États-Unis et cette campagne de vaccination qui démarre, qui laisse espérer à des jours meilleurs. On va en parler. On va parler de la campagne de vaccination française à 8h15 tout à l'heure. Vous avez noté le rendez-vous exceptionnel ce matin. Jean Castex, invité d'Europe Matin. Le confinement est allégé aujourd'hui, remplacé par un couvre-feu le soir. On va se projeter, contrer l'épidémie en 2021, sauver l'économie aussi. Puis l'enjeu de sécurité des Français. Ce sera au programme de l'interview, bien sûr, la sécurité, la loi sécurité globale, la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre répond aux questions, à toutes les questions de Sonia Mabrouk. C'est entre 8h15 et 8h45 sur Europe 1. Tout de suite, la Coupe du Monde de rugby 2023. Le tirage au sort, c'était hier.
Un peu d'excitation, c'est normal.
Waouh. New Zealand.
Aïe.
Aïe, oui. Le 15 de France jouera face aux All Blacks. Une excellente nouvelle pour Virginie Fulpin. L'édito sport dans une minute.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby 2023 a eu lieu hier. On en parlait dès hier matin sur Europe 1. Le 15 de France sera dans la même poule que la Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Pour vous Virginie, c'est le meilleur tirage possible pour ce mondial à la maison?
Quelle affiche vous fait le plus rêver dans le rugby international, franchement?
Oui.
Forcément,
non, mais c'est vrai.
Blacks,
après, on a un peu peur quand même.
Voilà, mais que vous soyez fan ou profane de rugby, la réponse, elle sera toujours celle-là. Il y a comme une petite lumière qui s'est mise à briller dans nos yeux au moment du tirage. L'envie d'y être déjà. Bon, alors vu la période qu'on vit, pas étonnant qu'on ait envie de se projeter dans le futur et d'être déjà à la rentrée 2023. Et il n'y a rien de mieux que la promesse d'un France-Nouvelle-Zélande pour nous sortir de la morosité ambiante et imaginer un avenir étincelant. D'un côté, donc, les All Blacks, la meilleure équipe du monde, un pays bercé par le rugby entre tradition et marketing, AKA et maillot noir à fougère argentée, triple champion du monde. Et de l'autre, le 15 de France en pleine renaissance, son French flair en étendard, à la maison devant son public. On aurait pu avoir une Coupe du Monde où ces deux équipes qui ont une si riche histoire commune ne se seraient jamais croisées. Vous imaginez la déception ? Donc oui, savoir dès aujourd'hui qu'il y aura bien un France-Nouvelle-Zélande en 2023, ça nous fait entrer directement dans la compétition. Et ça pourrait être l'occasion de rendre hommage à Christophe Dominici, de se souvenir de sa magie contre les All Blacks en 1999. Ce match, ce sera aussi un lien entre le passé et l'avenir.
Pour les Bleus, ça va quand même être compliqué d'affronter ces All Blacks d'entrée.
Alors certes, les Néo-Zélandais n'ont jamais perdu un match de poule dans toute l'histoire des Coupes du Monde. Ça calme ce genre de stats.
Jamais c'est un match de poule.
Jamais. Okay. Jamais. Mais on parle d'une poule de 5 équipes où les deux premières se qualifient pour les quarts de finale. Je veux insulter personne, mais les deux premiers, ce seront les Bleus et les All Blacks. Je ne sais pas dans quel ordre, en revanche, ça, désolé. Et du coup, ils ne pourront pas se retrouver avant la finale s'ils se retrouvent. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Alors maintenant, est-ce que ce France-Nouvelle-Zélande sera programmé en match d'ouverture? Les organisateurs en rêvent, évidemment. Fabien Galthié, beaucoup moins. Il va y avoir d'âpres négociations. Mais si, monsieur le sélectionneur, autant être directement dans le bain, avoir une pression maximale tout de suite, pour mieux l'évacuer en fait. Vos Bleus nous ont fait entrevoir des lendemains qui chantent cette année, les petits jeunes n'ont eu peur de rien face à l'Angleterre, et votre 15 de France saura répondre à ce rendez-vous à la maison. Commencez cette Coupe du Monde par France All Blacks, et la finir aussi. Une finale au Stade de France contre la meilleure équipe du monde, ce serait pas un merveilleux pendant ovale à France-Brésil 98 ?
Merci Virginie Fulpin. L'édito sport, c'est vrai, 2023, comme ça c'est loin, ça donne envie d'y être. La Nouvelle-Zélande aussi d'ailleurs, dans le paquet, c'est exotique comme ça. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver avec ce France All Blacks de 2023. Il est 7h24 sur Europe 1. Stéphane Bern est avec nous pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Petite confidence à l'attention des auditeurs, j'ai pour Mathieu Béliard ici présent une réelle admiration. Matinée de sympathie. Dès lors, quand je le croise dans les couloirs d'Europe 1, j'essaie d'avoir pour lui un regard amical et bienveillant. Pas question de se regarder en chien de faïence.
Tout ça pour en arriver à l'expression du jour, chien de faïence. Se regarder en chien de faïence, c'est se regarder avec hostilité.
Exactement. Le grand Robert parle, et c'est joli, de se considérer avec méfiance. La faïence est une céramique composée d'étain et d'argile qui recouvre les poteries. Cette technique vient d'Italie, plus précisément de la ville de Faenza, dans le nord-est du pays. Faenza qui donnera fort logiquement le mot faïence. C'est au XVIe siècle que la mode de la faïence est lancée et c'est une centaine d'années plus tard que va naître l'expression « se regarder en chien de faïence ». À cette époque, on se chauffe au bois et il était d'usage de décorer les cheminées de petites babioles, notamment de statues de chiens de faïence disposées face à face qui, de fait, passaient leur temps à se regarder sans bouger avec un air de défi. L'expression était née chien de faïence. Dans les pays anglo-saxons, on dit « to look daggers at each other », se regarder en lançant des poignards. Au Brésil, on préfère la formule « fusillar con un chorogue », fusiller du regard. On utilise aussi cette expression en France, notamment quand on tombe sur des femmes aux yeux revolvers ayant le regard qui tue et qui tire les premiers.
Oui, on les connaît. 16h, on vous retrouve tout à l'heure pour Historiquement Vôtre.
Oui. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup. On réunit l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et ses 16 enfants, Joséphine Baker et sa tribu arc-en-ciel de 12 enfants qu'elle a adoptés, et Ed Uben, un Hollandais qui a plus d'une centaine d'enfants aujourd'hui. Ça fait beaucoup de cadeaux pour Noël, je vous l'accorde. Bref, on vous raconte l'histoire, sans se la raconter, avec Mathieu Noël tout à l'heure, de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et avec ce que je vais vous dire, j'espère que vous ne me recevrez pas comme un chien dans un jeu de quilles. Voilà, c'est pour faire plaisir à notre ami Stéphane. Je voudrais simplement dire que la pluie est là et que c'est une pluie vraiment solide et bien large. Hein. Elle est costaude, comme on dit. C'est-à-dire que pratiquement les deux tiers de la France sont sous la pluie, 500 km de large, la perturbation. Et elle va s'en aller, mais traquette, hein, c'est-à-dire très lentement. Très lentement, donc sur le nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre, le Limousin, la Aquitaine et le Béarn, vous serez débarrassés à peu près à la mi-journée, au moment du repas. On peut sortir pour manger, bah oui. Littoral Atlantique, littoral de la Manche, là ben c'est bon, hein, vous aurez un ciel assez clair dans le courant de la journée. Et puis de la pluie sur le Dijonais, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, le bassin méditerranéen, le Midi-Pyrénées, les Cévennes et la vallée du Rhône. Bref, de la pluie partout, sur les régions de l'Est en particulier. Et vous aurez des températures, ma foi, assez sympathiques quand même, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, entre 11 et 14 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachem.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
On ne comprend pas très bien, par exemple, que dans un État laïque, on réouvre les endroits de culte et on interdise les théâtres. Ça tape sur la tête des gens, quoi.
La révolte du monde de la culture qui reste confinée alors que les Français peuvent à nouveau circuler librement à partir d'aujourd'hui. Des manifestations sont prévues partout en France pour réclamer la réouverture des cinémas, théâtres et musées. Cette annonce surprise d'Emmanuel Macron hier soir, un référendum pour intégrer la protection de l'environnement dans la Constitution. Réaction mitigée chez les écologistes. Certains dénoncent un simple coup de communication. Dans ce journal, le dilemme de la vaccination dans les EHPAD, un résident sur deux souffre de troubles cognitifs. Alors comment recueillir leur consentement dans ce contexte? Et puis nos opinions politiques, nos convictions religieuses ou encore nos activités sportives, autant de données personnelles qui pourront bientôt être fichées par la police.
Juste après ce journal, à 15 ans, c'est la première à être désignée enfant de l'année par le magazine Time. Scientifique et écolo, elle s'appelle Gitane Jalirao. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, invité exceptionnel jusqu'à 8h45, le Premier ministre Jean Castex. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ah mais tout d'abord, vous le savez, on vous raconte chaque jour ce monde qui change sur Europe 1. Et justement, on va s'intéresser ce matin à cette petite révolution. Vous connaissiez sûrement les publicités ciblées sur Internet en fonction de vos recherches. Imaginez un peu la même chose sur vos écrans de télévision. TF1 vient d'annoncer un accord avec Orange pour adapter la pub à partir du 1er janvier. Alors Théo Manval, concrètement, comment ça va se passer ?
Eh bien, il faut déjà préciser que rien ne se fera sans votre accord. Hein. Mais si vous recevez la télé par une box internet, l'opérateur, ici Orange, va vous demander si vous acceptez de recevoir ces publicités ciblées. Et si vous répondez oui, il pourra collecter votre adresse, le nombre de personnes qui vivent chez vous, les programmes télé que vous regardez le plus, et vous envoyer ainsi des pubs différentes de celles de votre voisin, Christian Bombrin, et le directeur produits et services d'Orange France.
Par exemple, une publicité pour un constructeur automobile, on va pouvoir cibler la taille de la voiture, est-ce que c'est un monospace pour une famille nombreuse ou est-ce que c'est une citadine pour un couple sans enfant?
Et avec votre adresse, des magasins pourront aussi vous signaler des promos sur tel ou tel produit dans la région où vous vivez. Si TF1 se lance après France Télévisions il y a moins d'un mois, c'est parce que ces nouveaux spots vont lui rapporter plus. François Pellissier dirige TF1 Publicité.
Les pubs seront vendues plus cher puisqu'on permet de cibler plus finement. Et là, des petites et moyennes entreprises pourront aller communiquer en télévision parce qu'elles peuvent le faire localement.
En résumé, pas plus de pubs à l'écran, mais un éventail plus large d'annonceurs pour les chaînes. Le marché pourrait peser plus de 200 millions d'euros dans 2 ans.
À la une de l'actualité, cet effet de surprise, plutôt réussi, d'Emmanuel Macron hier soir face aux membres de la Convention citoyenne pour le climat.
Après plus de 3 heures de discussion, le chef de l'État a annoncé sa volonté d'introduire la défense du climat dans la Constitution. Une nouvelle plutôt bien accueillie par la majeure partie de son public, mais pas de quoi convaincre le député européen Damien Carême, ancien maire écologiste de Grande-Synthe.
C'est une nouvelle opération de com'. Ben, on pourrait croire que c'est une bonne proposition, parce que notamment à l'émane de la Convention citoyenne, mais à y regarder plus près, je pense que la Convention citoyenne, c'était un tout, c'est 140 propositions. Là, il n'y a que celle-là, parce que il n'y a pas d'interdiction des véhicules polluants, il n'y a pas de remise en cause des traités commerciaux qui sont climaticides, il n'y a pas d'obligation d'isolation des logements. Et je pense que la lutte contre le changement climatique passe par toutes ces obligations et pas par une action qui finalement n'engage pas grand-chose. On met la protection du climat dans la Constitution, ça ne donne pas des textes de loi qui vont dans le bon sens, et rapidement, parce que maintenant le temps presse.
Les propos recueillis par Pierre Arbulot. Pour que le référendum voulu par Emmanuel Macron soit possible, il faut encore que l'Assemblée nationale et le Sénat votent en faveur de son organisation.
Après un mois et demi de restrictions, fini les attestations et les limites de déplacement, la France se déconfine à partir d'aujourd'hui.
Oui, c'est désormais un couvre-feu qui entre en vigueur de 20h à 6h du matin. Le monde de la culture, en revanche, reste encore confiné. Les cinémas, les théâtres, les musées devaient rouvrir leurs portes aujourd'hui, mais ils devront attendre le début de l'année prochaine. Alors les professionnels à bout de nerfs appellent à manifester aujourd'hui dans toute la France, dénonçant un deux poids deux mesures. Écoutez la colère du comédien Jacques Weber.
On comprend pas très bien, par exemple, que dans un État laïque, on réouvre les endroits de culte et on interdise les théâtres. C'est en effet extrêmement grave, parce que le théâtre est un lieu d'indépendance, de liberté. Tout ça crée des liens sociaux extrêmement importants. Et au bout d'un moment, je le sens bien près de moi, et partout, ça tape sur la tête des gens, quoi. Je ne comprends pas bien ce qu'on fait subir au théâtre, lors même qu'il n'y a pas eu connaissance de clusters dans les théâtres. Et je crois qu'il faut tous se serrer les coudes. Pour ça, il faut tous manifester.
Jacques Weber avec Diane Chénouda. À Paris, un rassemblement est prévu à midi sur la place de la Bastille.
7h35 sur Europe 1. On va s'intéresser à présent à la vaccination dans les EHPAD. Les résidents seront prioritaires, a dit le gouvernement, mais la vaccination ne sera pas obligatoire.
Et comme pour le reste de la population, les résidents auront le choix de se faire vacciner ou pas. D'ailleurs, les fédérations des directeurs d'établissements pour personnes âgées plaident pour un accord écrit de leur part. Du coup, Anne Le Gall, même si le vaccin arrive en France avant la fin de l'année, dans les EHPAD, la campagne ne devrait pas commencer tout de suite.
Exactement, car cette campagne dans les EHPAD est un immense défi logistique avec encore pas mal de questions en suspens. D'abord, celle du consentement. Plusieurs représentants des maisons de retraite réclament, comme Pascal Chanvert, qu'on leur fournisse un document écrit sur les bénéfices de la vaccination.
Pour éviter qu'il y ait des interprétations qui partent dans tous les sens, le plus simple, c'est que le ministère rédige une note que nous lirons à la personne âgée.
Ensuite, un autre sujet à trancher, celui de la personne de confiance. La moitié des résidents d'EHPAD souffrent de troubles cognitifs. Il faut donc clarifier qui décidera pour eux. Et puis, explique Florence Arnaise-Maumet, représentante du SINERPA, le syndicat des maisons de retraite du privé. Beaucoup de résidents veulent en savoir plus sur le vaccin. Ils ne se décideront qu'après la validation de la Haute Autorité de Santé début janvier.
Sans ces éléments, nous ne pouvons absolument pas recueillir le consentement. Donc de toute façon, nous ne pourrons pas être prêts avant le 15-20 janvier et l'État en est tout à fait conscient. Donc nous sommes sur cette phase-là.
Et après ça, suivra un autre marathon logistique, celui du rappel du vaccin 3 semaines plus tard.
Et puis cette question polémique. Pourrait-on voir nos opinions personnelles inscrites dans un fichier de police ?
Une conviction politique, religieuse et même nos pratiques sportives. 3 décrets ont été publiés au Journal officiel il y a une dizaine de jours. En toute discrétion, ils permettent d'élargir les informations concernant les personnes susceptibles d'être dangereuses pour la sûreté de l'État. Et ce qui fait notamment réagir Gladys Laffitte, c'est que ces fichiers ne s'intéressent plus seulement aux activités des personnes.
Oui, l'idée n'est plus seulement de ficher un hooligan, un activiste ou un manifestant violent pour ses actes, mais simplement pour ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou encore s'il est syndiqué, en clair, juste sympathisant d'une cause sans forcément militer. Et autre nouveauté, ces fichiers concernent aussi désormais l'entourage des personnes ciblées, leurs amis, leurs familles et même leurs enfants, avec photos et même leurs commentaires postés sur n'importe quel réseau social. Tout cela est disproportionné pour Nils Monsara, secrétaire national au syndicat de la magistrature.
Peu importe ce que les gens pensent, l'important c'est ce qu'ils font. En fait, ça accrédite un peu l'idée qu'il faut prévenir toujours plus et au nom de la prévention généralisée, on arrive à avaliser des choses qui ne sont pas acceptables dans un état de droit et dans une démocratie.
Alors au ministère de l'Intérieur, on assure que cela répond à un besoin opérationnel dans la lutte contre le terrorisme. Pas de surveillance de masse, selon Gérald Darmanin, mais la CNIL s'alarme. Elle n'a pas été consultée sur le fichage des opinions. Plusieurs syndicats et associations ont par ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Verdict attendu demain au procès des attentats de janvier 2015. Il s'est achevé hier, après 3 mois et demi d'audience, avec les derniers mots des accusés et les plaidoiries de leurs avocats. Et puis ça y est, c'est enfin officiel, 1 mois et demi après le scrutin, Joe Biden deviendra bel et bien le 46e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Le collège électoral américain a confirmé sa victoire la nuit dernière.
Merci Sophie. C'est tout ? C'est terminé ?
Vous
n'avez pas donné. Attendez, j'ai une info ce matin. Montez le son.
Je vous écoute.
Avec les enfants, surtout dans la voiture, si vous êtes en train d'aller au boulot, à l'école. Je voudrais vous faire entendre un mot rassurant. Il y a Noël, dans 10 jours. Écoutez Maria Van Kerkhove, épidémiologiste en chef à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Je peux vous dire que le Père Noël est immunisé contre ce virus. Nous avons eu une brève conversation avec lui et il va très bien. Madame Noël va très bien aussi. Ils sont très occupés en ce moment. Écoutez son sérieux. Et le Père Noël pourra sortir dans l'espace aérien pour livrer des cadeaux aux enfants. Le Père Noël pourra bien voyager à travers le monde, nous dit l'épidémiologiste en chef.
C'est rassurant.
C'est quand même rassurant. À 10 jours de Noël, on termine le journal avec cette bonne nouvelle. 7h39 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est l'événement ce matin et c'est sur Europe 1 une nouvelle phase dans la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, instauration du couvre-feu, on en parlait ce soir, fin des attestations en journée. Arrivera-t-on en 2021 à juguler cette épidémie, la campagne de vaccination en question, la relance de l'économie aussi frappée par la crise. Le Premier ministre Jean Castex au micro de Sonia Mabrouk, c'est ce matin jusqu'à 8h45. Mais tout de suite, un vent de fraîcheur. Une adolescente de 15 ans, scientifique, écolo, elle veut changer le monde. C'est la première à être sacrée enfant de l'année par le magazine américain Time. Vous entendrez forcément parler d'elle dans les années à venir. Gitane Jalirao est l'invitée du tête-à-tête Europe Matin. C'est dans une minute. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h41 sur Europe 1. Que faisiez-vous, vous, à 15 ans? Mon invité est la première personnalité à être désignée Kid of the Year, enfant de l'année, par le magazine Time. Elle a inventé un appareil qui détecte la pollution au plomb dans l'eau. Une application aussi pour lutter contre le harcèlement en ligne. Elle n'a que 15 ans. Retenez bien le nom de mon invité, elle veut changer le monde. Elle s'appelle Gitane Jalirao.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Gitane Jalirao.
Hi, thank you for having me.
Vous êtes la première, toute première à être désignée enfant de l'année, Kid of the Year, par le magazine Time. La première d'une longue liste, j'imagine. Comment est-ce que vous le vivez ?
C'est une expérience vraiment excitante pour moi. Je pense que plus que tout, c'est un honneur d'apparaître aux côtés de toutes ces personnalités incroyables dans le Time Magazine et de pouvoir représenter le visage de notre nouvelle génération.
Vous dites que vous aimez apprendre, vous vous définissez vous-même comme curieuse. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait en apprendre toujours plus, qui voulait explorer de nouvelles choses. Si j'entends un nouveau concept dans les journaux ou à la télé, je dois aller regarder en profondeur et voir à quoi cela correspond dans la vraie vie. Je pose toujours des questions pour n'importe quoi, car je pense que les grands inventeurs sont de grands penseurs, et les grands penseurs posent forcément beaucoup de questions.
Vous-même, vous êtes une jeune scientifique, vous avez inventé cet appareil connecté à nos téléphones qui nous dit si l'eau est potable ou non. Vous étiez très jeune à l'époque. Dans le magazine Time, vous êtes interviewée par Angelina Jolie et vous lui avez dit « Il ne faut pas essayer de régler tous les problèmes, mais il faut se consacrer à ceux qui nous inspirent. »
Yes. Oui,
c'est exact. L'idée, c'est que si vous êtes passionné par la résolution d'un problème, si vous êtes passionné par un problème, alors allez-y, faites-en votre objectif. Vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes dans le monde.
Vous avez aussi développé une application qui utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre le harcèlement en ligne. Alors l'idée de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de contrôle parental. Cela respecte l'indépendance des enfants, leur autonomie, c'est ça ?
Oui, exactement. Cela va identifier les mots liés au harcèlement. Comme le monde change en permanence, tous les jours nous avons des nouveaux mots, des sens, des termes, des émojis pour tout. C'est un outil qui va évoluer constamment pour apprendre ces nouveaux termes. L'idée n'est pas de punir l'utilisateur. Cela va leur permettre de pouvoir reformuler leurs phrases, mais ce n'est pas un outil punitif en soi.
Parmi vos autres projets, il y a ces sessions d'innovation. Je voulais en parler, ce sont des ateliers en fait, où vous aidez les étudiants dans le monde entier à développer leurs facultés scientifiques, leurs talents.
Oui, j'ai développé ça pour tous les étudiants du monde. Cela concerne déjà 33 800 étudiants en tout. Et chaque étudiant vient à l'atelier avec une idée et la méthode qu'ils peuvent appliquer pour concrétiser cette idée. L'objectif, c'est de faire passer un message. C'est que vraiment tout le monde peut inventer des choses si vous avez la passion, si vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves.
Il y a beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur dans votre discours. Ce que vous dites finalement, c'est que c'est surtout une question de confiance en soi.
Yeah,
exactly.
Oui, c'est ça. Et le plus important, c'est de les motiver pour aller au-delà des idées préconçues, des préjugés.
Oui, les motiver, mais ce n'est pas que de la psychologie. Hein. Vous avez aussi une méthode. Vous aidez les adolescents à organiser leur travail.
Oui, j'ai développé ça pour tous les étudiants du monde. Cela concerne déjà 33 800 étudiants en tout. Et chaque étudiant vient à l'atelier avec une idée et la méthode qu'ils peuvent appliquer pour concrétiser cette idée. L'objectif, c'est de faire passer un message. C'est que vraiment tout le monde peut inventer des choses si vous avez la passion, si vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves.
D'où vient votre intérêt pour les sciences ?
Ce n'est pas né d'un seul coup, mais c'est quelque chose qui a constamment évolué, progressé grâce aux choses que j'aime. Et j'ai réalisé que je voulais utiliser la science pour changer les choses de façon positive. J'aime juste redonner le sourire aux gens et leur permettre de mieux se sentir. Ma science, c'est innover pour le changement, innover pour avoir un impact positif dans le monde.
Et là, nous parlons ce matin à l'enfant de l'année, selon le magazine Time, mais je voudrais rappeler que vous n'avez... que 15 ans. Quels sont vos passe-temps d'une jeune fille de 15 ans ? Vous avez des hobbies qui ne sont pas forcément liés à vos engagements scientifiques ?
Je fais de l'escrime, je joue de la basse, du piano, je fais beaucoup de cuisine et je passe en ce moment mon permis de pilote d'avion.
Votre permis de pilote ?
Yep, it's so fun.
Oui, c'est très amusant. Je peux voler avec un avion, mais je ne peux pas conduire une voiture.
Vous pensez la science, Gitanjali Rao, comme un outil pour réaliser des changements dans la société.
Oui, j'ai l'habitude de dire que j'utilise la science et les technologies comme un catalyseur du changement social. Je ne peux pas imaginer un monde positif et bienveillant sans la science.
Une professeure vous a dit une fois que vous alliez changer le monde. C'est votre mission maintenant ?
Oui, tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un impact positif ? C'est ça qui me motive le plus, savoir que je peux changer le monde. Je voudrais juste être comme mes mentors.
Et qui sont vos mentors dans la vie ?
Évidemment, j'irai mes deux parents et aussi mes professeurs, les chercheurs qui m'ont aidé dans cette aventure. Mais je pense que ce sont surtout les scientifiques, les inventeurs qui ont été capables de mettre la science au service des autres, d'apporter une autre façon d'utiliser la science. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est Jonas Salk et son vaccin contre la polio. La plupart des gens ne le savent pas, mais il ne s'est jamais approprié cette invention. Il ne l'a jamais revendiquée comme la sienne, parce qu'il voulait qu'elle soit largement utilisée. Et c'est ça qui est tellement inspirant pour moi, quelqu'un qui fait passer les autres avant lui.
Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ?
Je travaille sur un projet, à vrai dire, je reviens au sujet de mes premiers travaux sur la composition de l'eau. Je cherche à comprendre comment on peut repérer les choses qui bougent, les parasites, en utilisant des microbes génétiquement modifiés. Je ne suis pas sûre de savoir comment faire, je suis toujours dans la phase de recherche.
Merci beaucoup, merci Gitanjali Rao.
Thank you for having me.
Et encore bravo hein, pour cette récompense, l'enfant de l'année, Kid of the Year, selon le Time Magazine.
Thank you.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h50 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel Macron a annoncé hier soir à la Convention citoyenne sur le climat un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution.
Ah, que c'est compliqué de réinventer la démocratie. Ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron cherche la bonne formule. Dans la première année qui a suivi son élection, le jeune président de la République a fait dans la verticalité. Il avait, avec son élection, pulvériser les partis politiques traditionnels, le vieux monde, comme on disait alors avec un brin d'arrogance dans les rangs de la République en marche, le chef, c'était lui, la démocratie, c'était lui. Même chose envers les syndicats, pour lesquels Emmanuel Macron éprouvait beaucoup de méfiance, leur rôle devait se contenir au niveau de l'entreprise ou de la branche sectorielle, plutôt qu'au niveau national. Bon, tout ça n'a tenu que 18 petits mois avant que la mécanique ne s'enraye.
Avec la crise des gilets jaunes.
Exactement, le parfait bug démocratique. Le parti du président, composé d'amateurs et fiers de l'être, n'a pas vu les signaux faibles du mécontentement qui grondait, n'a pas fait remonter d'alerte, a laissé la crise se propager sans réagir ou presque, le degré zéro de la vie démocratique. Ça aurait pu emporter Emmanuel Macron, mais il a habilement fini par s'en servir, comme dans une prise de judo, pour retourner à son avantage cette demande populaire d'expression directe. Ce sera le grand débat, des dizaines d'heures d'écoute et de prêches, des centaines de Français qui s'expriment ou écoutent, des centaines de milliers qui le suivent à la télé. Enfin, un lien direct et parfaitement démocratique avec les vrais gens. Sauf que ça a calmé la crise, mais très vite, ça a fait pchit. Les Gilets jaunes se sont dissous tout seuls, sans que soit apaisée l'inquiétude sur la question du climat.
Et c'est donc l'épisode des 150 citoyens de la Convention pour le climat.
Voilà, des Français tirés au sort, en théorie selon une méthode proche de celle des sondages, et donc supposés être parfaitement représentatifs. Le chef de l'État a pensé les séduire en leur promettant la Lune, c'est-à-dire l'application sans filtre de toutes leurs propositions, sauf trois d'entre elles. Bref, la démocratie directe dans sa quintessence. Sauf qu'on s'est vite aperçu que tous ces volontaires étaient déjà convaincus, sensibles aux arguments de quelques meneurs bien formés, ce qui a donné un catalogue jusqu'au boutiste de revendications, accompagné, mais oui, de mise en demeure à l'adresse d'Emmanuel Macron, un peu dictatorial tout de même pour un soi-disant exercice de démocratie, et en fait, une impasse.
Et donc Emmanuel Macron cherchait toujours un remède à la crise de la démocratie.
Et après avoir fait compliqué, ben le voilà qui semble se dire que c'est aussi bien de faire simple. Comment ? Ben avec un référendum, bien sûr. La démocratie directe par excellence. Sauf que, en admettant que les filtres de l'Assemblée et du Sénat soient franchis, on sait très bien que le risque d'un référendum, c'est que les électeurs répondent non pas à la question, mais à celui qui la pose en une sorte de plébiscite, ce qui n'est sûrement pas ce qu'il y a de mieux en démocratie.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Il est 7h53 et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale à 8h15. Sonia Mabrouk interviewera le Premier ministre Jean Castex. Alors bien sûr, c'est Emmanuel Macron lui-même qui est venu le coacher.
Oui, bonjour Monsieur Bétou, bonjour. Monsieur Béliard. Excusez-moi, j'ai une douleur au cervical, ça me tire un peu au niveau de la nuque. C'est, à force d'avoir fait oui de la tête pendant 4 heures à ces blaireaux, enfin c'est aux citoyens de la convention citoyenne. Voilà, je fais pareil avec mes ministres, hein, mais attention, j'ai des variantes. Je dis parfois eh oui, ou mais tout à fait. J'ai aussi, ça m'a bien ça, c'est certain, oui. Merci de m'avoir sensibilisé à ce problème. Vous voyez, ça m'en retire encore au niveau de la nuque. Je finis toujours par. Bon, allez. La porte, c'est par là. On se rappelle, j'ai une pandémie mondiale à gérer, moi. Voilà. N'hésitez pas à faire pareil avec Jean Castex. Hein. Allez, soyez pas trop dur avec mon Jean, parce que déjà qu'il a jamais rien de sympa à annoncer, si en plus vous êtes pugnace.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours, juste avant 8h. Alors on vous retrouve à 8h45 tout à l'heure pour la revue de presque. Ce matin, vous l'aurez compris, invité exceptionnel d'Europe Matin, à 8h15, le Premier ministre Jean Castex au micro de Sonia Mabrouk, 7h55. Europe 1. 7h57, une information Europe 1. Est-ce que vous vous êtes rué en librairie après la réouverture ? Le prix Goncourt voulait booster les ventes en librairie en récompensant un livre à beau potentiel commercial. Bonne pioche, nous dit Nicolas Carreau, le monsieur livre d'Europe 1, qui nous apprend que L'Anomalie d'Hervé Le Tellier s'est placée en tête des ventes. Gallimard en est pour l'instant à la 12e réimpression. Le tirage, écoutez bien, le tirage atteint maintenant 750 000 exemplaires. À l'origine, le roman était tiré à 12 000 exemplaires. 750 000 exemplaires, pour information, L'Anomalie est devant la biographie de Barack Obama. 7h58, vous êtes sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous, il nous a rejoint pour la météo.
Ouais, et si Monsieur Castex veut nous annoncer de bonnes nouvelles comme s'il en pleuvait, c'est le jour. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons de la pluie sur les deux tiers de la France. En fait, les régions qui en sont les premières débarrassées sont nos amis qui habitent les côtes de la Manche, le long des côtes atlantiques aussi, les côtes atlantiques. Et en Méditerranée, non, il pleut, il va pleuvoir même de manière assez soutenue. Partout ailleurs, les pluies vont commencer un peu à s'estomper, mais sur des contrées comme le Nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le Centre, le Limousin, l'Aquitaine et le Béarn. Les pluies s'atténueront dans le courant de la matinée et vont cesser probablement cet après-midi. Mais il continuera de pleuvoir partout ailleurs, Lorraine, Alsace, Dijonais, région Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté, tout le bassin méditerranéen, je l'ai dit, le Midi-Pyrénées. Les pluies seront fortes même sur les Cévennes et la vallée du Rhône. Les températures seront d'une bonne tenue, entre 10 et 14 degrés. Voilà, la douceur, c'est la seule bonne nouvelle du jour.
Et on prend un peu de douceur malgré la pluie. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Presque 8 heures sur Europe 1.
Nous, c'est un peu quelque chose qui était pour nous le symbole, et en même temps, il garde le thème garantir, ce qui est carrément impliquant et engageant.
La satisfaction affichée des citoyens de la Convention climat. Le président valide leur idée d'un référendum pour inscrire dans la Constitution la protection du climat. Un pari politique aussi pour forcer la main du Sénat détenu par la droite. Un couvre-feu une heure plus tôt, qu'est-ce que ça change face au virus? Des épidémiologistes nous répondent. Puis dans ce journal, face au gouvernement, les colères de deux mondes. Celui de la culture qui va manifester aujourd'hui et celui de la police qui se fait entendre depuis une dizaine de jours.
La fin des attestations, le retour du couvre-feu, la relance de l'économie dans ce contexte inédit et la lutte contre le terrorisme, le séparatisme islamiste, c'est l'événement ce matin. Et c'est sur Europe 1. Jusqu'à 8h45, le Premier ministre Jean Castex répond aux questions de Sonia Mabrouk. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Visiblement, le truc dont parlait Emmanuel Macron il y a 10 jours, à savoir les propositions de la Convention climat, a finalement inspiré le président plus qu'on ne le pensait. Voilà qu'il veut faire rentrer la défense de l'environnement dans ce qui est la Bible de la République, c'est-à-dire la Constitution.
Bonjour Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'échange hier soir a été long et parfois tendu entre le président et les membres de la Convention climat. C'est bien cette décision que l'on retient ce matin.
Oui, et cette annonce elle a été faite à la toute fin de ces 4 heures d'échange au détour d'une simple phrase.
Sur l'article 1er de la Constitution, ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum.
Et là, la salle est restée silencieuse, comme interloquée, avant d'applaudir. Emmanuel Macron, à la surprise générale, acte ainsi, mot pour mot, une réforme constitutionnelle proposée par la Convention citoyenne. Je vous la cite. La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà ce qui sera proposé au Parlement, puis aux Français, sauf si la droite sénatoriale s'y oppose. Elle s'est régulièrement élevée contre les réformes constitutionnelles depuis le début du quinquennat. Hypothèse repoussée par l'Élysée, bien évidemment. Vous pensez vraiment qu'ils vont refuser une demande unanime des Français sur l'écologie, s'amuse un conseiller. Chacun prendra ses responsabilités, me confiait hier soir un ministre. Pour l'instant, on mesure mal la portée juridique qu'aurait cette formule. On n'en sait rien d'ailleurs. On ne connaît pas le calendrier de ce référendum. Mais hier soir, Emmanuel Macron a réussi un double coup politique, satisfaire les membres de la Convention citoyenne avec lequel il était en froid et repasser la responsabilité de ce référendum aux sénateurs.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Fini le confinement de jour, retour du couvre-feu le soir. Il sera plus strict. Ce matin, notre quotidien change à nouveau.
Oui, ne comptez pas faire vos courses après 20h. C'est désormais impossible. Si vous circulez le soir, c'est uniquement parce que vous revenez du travail ou de la gare, que vous promenez le chien ou que vous avez une raison médicale. Ce nouveau couvre-feu commence donc une heure plus tôt que celui d'octobre. Reste à voir si l'impact sur l'épidémie sera plus fort. Victor Delande.
Pas le temps de traîner au travail, ni de boire un verre chez un ami, ni de déambuler dans les magasins à la recherche de cadeaux de Noël. À 20h, tout le monde à la maison. C'est une heure de contact en moins par rapport à 21h. C'est déjà ça, mais ça ne va pas inverser la tendance actuelle, selon Nathan Peffers-Madja, infectiologue à l'hôpital Bichat.
Je pense pas que 20-21h, ça change massivement les choses. Déterminant principal étant à quel point les gens respectent ce couvre-feu, finalement, quelle que soit l'heure qui est déterminée.
Depuis quelques jours, les contaminations repartent à la hausse. Le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un seul malade, remonte également, ce qui préoccupe l'épidémiologie. Dominique Costaguillola.
On est dans une situation, on est à un équilibre haut, avec un R0 proche de 1. On voit qu'il suffirait de pas grand-chose pour le déstabiliser. Il y avait un confinement, disons, assez partiel, mais quand même. Et on passe à cette mesure-là. De quel côté ça va nous faire basculer? Pas sûr que ce soit suffisant pour qu'on reste du bon côté du 1.
Ce R effectif est actuellement de 0,8 et s'il repasse au-dessus de 1, l'épidémie repartira. Son conseil avant Noël, s'auto-isoler dès maintenant pour limiter au maximum les risques de contamination avant le réveillon.
Victor Delande du service Société d'Europe.
Ce jour du déconfinement aurait dû être celui de la réouverture des cinémas, des théâtres, des musées. Ils ont appris il y a 5 jours qu'ils devaient garder porte close.
Oui, d'où cette colère qui monte dans le monde de la culture, qui va manifester aujourd'hui à Paris, Lille, Marseille, Strasbourg, encore Nantes. Colère qu'exprimait en direct le grand producteur de spectacles de chevaux, Bartabas, ce matin sur Europe 1. Pour lui, la nouvelle date avancée par le gouvernement pour une reprise des représentations, le 7 janvier, va forcément être décalée.
On n'est pas dupes, tout le monde sait très bien que le 7 janvier, il y aura forcément plus de cas que maintenant, puisqu'il va y avoir les fêtes avant, ça paraît évident. Qu'on prenne l'exemple sur Madame Merkel, au moins un chef d'État qui a le courage de dire franchement les choses, qui dit carrément, voilà, jusqu'à nouvel ordre, c'est fermé, on en reparlera plus tard. Ça, c'est un langage clair qui permet de s'organiser.
Ouais. Moi, je suis pas vous en voulez au gouvernement d'avoir avancé cette date du 15 décembre, puis
mais
de l'avoir repoussée, on le comprend.
C'est de l'incompétence, je veux dire, je sais pas, Madame la Ministre, elle est entourée par peut-être un cabinet d'énarques qui ne sait même pas ce que c'est que la création du spectacle vivant. Il faut être un peu réaliste, quoi. Alors, c'est le président aussi. C'est un jeu. Vous savez, tout ça, c'est un jeu médiatique qui permet de garder un suspense où on a comme des enfants, on leur dit attention, vous aurez peut-être si, mais non, ça marche pas comme ça. Il faut avoir le courage d'affronter la situation. Et quand je dis le courage d'un politique, c'est de dire oui, voilà, c'est la merde. Ben, on vous le dit. On prétend pas vous lancer une petite carotte de temps en temps.
Barthabas, c'est son coup de gueule, hein. Il est contre les petites carottes lancées comme ça. Il était l'invité de Sébastien Krebs tout à l'heure à 6h40 sur Europe 1. Et puis on apprend ce matin la suite logique d'un feuilleton délicat pour ce gouvernement et sa majorité. La parution au journal officiel de la loi réautorisant les néonicotinoïdes dans les enrobages de semences de betteraves.
Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, des policiers qui multiplient les manifestations.
Une Marseillaise sous la pluie dans la nuit parisienne. Les agents se sentent lâchés par l'exécutif depuis qu'Emmanuel Macron a parlé de violence policière il y a 10 jours.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h07, la suite du journal, François Geffrier.
C'est une double question pour l'exécutif, celle des violences reprochées à certains policiers et celle du malaise au sein des forces de l'ordre, des agents qui se sentent parfois abandonnés. Encore hier, à Paris, l'Arc de Triomphe, balayé par le bleu des gyrophares dans la soirée, une centaine de policiers rassemblés pour protester.
Bonjour Guillaume Bier.
Bonjour.
Ce n'est pas la première démonstration de colère, hein. Ça fait 10 jours en fait qu'un vrai ras-le-bol monte chez les policiers.
Oui, c'est une colère quotidienne des policiers partout en France. Ce que l'on entend là, c'était lors d'un rassemblement à Nantes avec les voitures de service en dépit des rappels et des menaces de la hiérarchie. Opération à Paris, Montpellier, Reims, Albi, Toulouse. Des ralentissements sur les routes pour distribuer des bonbons à Marseille, à Dijon ou encore ceci. Oui, c'est bien la musique des bisounours lors de ce pseudo-contrôle d'automobilistes sans aucune verbalisation. Dernière action en date, hier à Grenoble, 132 policiers ont déposé une demande de rupture conventionnelle. Première étape pour quitter la police, explique Yannick Bianchieri, délégué Alliance en Isère.
Ils font un premier rapport pour demander combien l'administration est prête à leur donner s'ils quitteraient la maison police pour faire une reconversion. Les collègues n'en peuvent plus, ils sont à bout. La police a toujours été là pour protéger la population, que ce soit toutes les manifs, les attentats, le Covid. On a toujours appelé sur la police. Par contre, il y a une intervention de police toutes les secondes. On en sort une de son contexte et on refait tout le procès de la police en général. Donc le fait de dire que la police fait les contrôles aux faciès, que la police est violente, ça c'est les propos inadmissibles.
Ce sont effectivement les propos d'Emmanuel Macron que n'ont pas digéré ces policiers qui se défendent de tout racisme et violence systémique.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Cette fois-ci, ce n'est pas CNN, Fox News ou Twitter, mais bien les grands électeurs américains, quoi de plus officiel, qui ont confirmé Joe Biden comme futur président des États-Unis.
Oui, avec la voix un peu éraillée pour son nouveau discours de victoire. Et maintenant, il est temps de tourner la page et de s'unir pour soigner le pays. Je serai le président de tous les Américains. Je travaillerai autant pour tous ceux qui n'ont pas voté pour moi comme pour ceux qui ont voté pour moi. Il était numéro 2 de l'exécutif américain il y a 4 ans. Il s'installera à la Maison Blanche dans 36 jours maintenant. Joe Biden s'exprimait cette nuit depuis son fief de Wilmington.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1, 8h09, dans un tout petit instant, Sonia Mabrouk et un invité exceptionnel ce matin jusqu'à 8h45, le Premier ministre Jean Castex. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h13, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le Premier ministre Jean Castex.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Madame.
Lors de votre entrée en fonction, quand vous avez prononcé votre discours de politique générale il y a 6 mois, quasiment jour pour jour, vous avez dit « Je veux assurer la sécurité des Français ». Par cette phrase, vous entendiez la sécurité sanitaire face à l'épidémie, la sécurité économique et sociale face aux conséquences du confinement, la sécurité des Français face à l'insécurité du quotidien et la menace terroriste. 6 mois plus tard, la circulation du virus est toujours prégnante, la situation économique et sociale est préoccupante malgré le soutien de l'État et les violences minent notre pacte républicain. C'est dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, que vos réponses sont attendues pour expliquer le sens et donner du sens à l'action de l'exécutif. Et pour commencer, cette annonce hier soir du président de la République d'un référendum afin d'inscrire la défense du climat dans la Constitution. Pourquoi ce choix d'un référendum ?
Je crois que c'est l'illustration d'une formidable innovation politique face à laquelle nous nous trouvons. Vous voyez, quel est le sujet ? Le sujet, c'est un sujet planétaire. la transition écologique. C'est un défi majeur pour tous les pays, pour la France en particulier, qui a fait le choix d'être aux avant-postes dans ce domaine. Souvenez-vous, la signature à Paris de la Convention sur le climat, avec le retour des États-Unis annoncé. C'est une formidable perspective. Bon. Nous voulons le faire, vous faisiez allusion à ma déclaration de politique générale, avec notre méthode, hein, c'est-à-dire une écologie ouverte, une écologie qui ne soit pas punitive, une écologie généreuse, une écologie qui transforme, une écologie qui entraîne. Alors, le président de la République, il a recouru, il a fait appel à 150 citoyens.
Oui.
C'est totalement innovant, madame. Ils ont fait des propositions fortes que nous allons écouter, dont nous allons collectivement débattre. Ça, c'est déjà nouveau. Ensuite, la démocratie représentative, le Parlement, va reprendre ses droits. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il va examiner un projet de loi qui sera issu des propositions des citoyens, il va en débattre, il votera, et puis, nous avons souhaité que sur ces sujets majeurs, le président de la République a voulu que le peuple souverain se prononce.
Vous vous
voyez
en
cette innovation des nouvelles techniques de démocratie sujet majeur donne la parole aux Français dans toute leur composante.
Mais on connaît l'histoire des référendums en France. Il peut se transformer en pour ou contre Emmanuel Macron. Vous assumez ce risque ?
Écoutez, l'écologie, je pense que nos concitoyens en sont parfaitement conscients, est une cause qui nous réunit, qui nous dépasse à toutes et à tous. Je pense que donner la parole au peuple, c'est la quintessence de la démocratie. Et c'est un honneur pour le président de la République que d'y recourir.
Mais expliquez à nos auditeurs, monsieur le Premier ministre, ce matin, la charte de l'environnement a déjà une valeur constitutionnelle. N'est-ce pas alors un artifice de communication, comme le dit l'opposition, de la part du président de la République ?
L'opposition, évidemment, s'oppose. L'essentiel, madame, c'est que le peuple ait le dernier mot. Et je crois, pour que ce ne soit pas des artifices de communication, qu'il faut saisir le peuple sur des questions essentielles, sur des questions qui font bouger la société. Et si la transition écologique n'est pas une de ces questions essentielles, je me demande alors ce qui constitue une question essentielle.
Mais vous avez raison, mais ce matin je me mets à la place d'un auditeur qui se dit, et pourquoi pas un autre sujet ? La laïcité par exemple, pourquoi pas dans la Constitution ? N'est-ce pas un sujet essentiel, monsieur le Premier ministre ?
La laïcité est un sujet essentiel. Les principes de laïcité ont déjà, chère madame, et vous le savez, une portée constitutionnelle, et nous allons d'ailleurs, vous le savez aussi, moderniser, adapter au temps présent cette magnifique valeur de laïcité, j'y insiste auprès de vous. Donc, par rapport à votre introduction, madame, vous me permettez de vous dire que nous sommes sur tous les fronts, sur tous les sujets.
Une date, un calendrier pour ce référendum ?
Alors, ça, c'est un peu difficile à dire. Ça nous ramène, chère madame, malheureusement, aux conditions sanitaires. Il faut d'abord que l'Assemblée nationale
et
le Sénat, puisque
d'abord.
Nous respecterons scrupuleusement, évidemment, notre Constitution vote, comme on dit en termes conformes, ce projet. Et ensuite, voilà, la semaine prochaine, je le dis pour vos auditrices et vos auditeurs, nous allons adopter un projet de loi sur la base d'un rapport fait par M. Debré visant à reporter les élections cantonales et régionales parce qu'elles ne peuvent pas se tenir en raison du contexte sanitaire. Donc, évidemment, c'est ce contexte sanitaire qui déterminera l'échéance du référendum.
Évidemment, avant la fin du quinquennat.
Si possible, bien entendu.
On en vient, monsieur le Premier ministre, à la crise sanitaire. Alors, sur le fondement même de vos arbitrages face à l'épidémie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande étude scientifique rigoureuse française sur les principaux lieux de contamination dans notre pays ?
Alors d'abord, on dispose d'études scientifiques internationales sur lesquelles on peut se référer. Oui, mais enfin, le virus est à peu près le même partout. Ces études sont engagées. Une va être publiée, je crois, cette semaine, sous l'autorité du professeur Fontanet, qui confirme d'ailleurs des éléments issus des études internationales. Donc on va disposer d'une étude nationale. Surtout, vous l'avez vu, pour la compléter, nous avons engagé dans 4 métropoles des opérations de tests importantes, massives, dis donc, hein, 2 avant Noël, 2 après Noël, qui ont déjà commencé d'ailleurs, et dont l'un des objectifs est précisément de mieux connaître
bien
l'épidémie,
sûr,
dans quel quartier elle va, quelle catégorie de population touche-t-elle, etc.
Mais monsieur le Premier ministre, sur la grande étude, pourquoi parce que pour faire accepter des mesures, il faut qu'elles soient comprises. Si vous auriez-vous publié si vous aviez publié cette étude, cette grande étude? Ça fait un an que le virus circule. Mais pourquoi encore, il n'y a pas cette étude?
Madame, encore une fois, nous avons des éléments scientifiques. Le virus n'est pas différent aux États-Unis, en Allemagne.
Il y a des modes de vie différents.
Les lieux de contamination sont connus. Et vous verrez d'ailleurs.
Ils sont connus.
Et vous verrez d'ailleurs. Je dispose des pré-éléments de l'étude du professeur Fontanet. Elle confirme. Elle confirme quoi la littérature scientifique
mais
internationale.
Est-ce qu'elle confirme vos arbitrages nouveau. Est-ce que cette étude confirme vos arbitrages et vos choix
oui.
pour la fermeture
oui. oui, madame. Oui, bien sûr. Bien
donc,
sûr.
Elle indique que les principaux lieux de contamination
sont les lieux privés.
Ah, d'accord. Bah, d'abord, les lieux privés.
On a toujours dit ça, bien entendu. Les restaurants et les cafés, évidemment. C'est-à-dire, en fait, pardonnez-moi, il peut arriver que la science rejoigne le bon sens. C'est-à-dire les lieux où vous ne pouvez pas garder votre masque, les lieux qui sont plutôt clos, couverts, les lieux où vous restez un temps assez long ensemble, des lieux où les interactions sont plus fortes qu'ailleurs, voilà. Donc vous avez les salles de sport, vous avez les discothèques.
Ces éléments seront publiés et connus du grand public et confirmeront, si je vous entends bien, vos arbitrages et vos décisions.
Absolument.
Ce mardi 15 décembre, les lieux culturels qui doivent garder porte close s'estiment injustement punis et même, le mot est employé, méprisés par le gouvernement. N'y avait-il pas d'autre alternative ?
Alors, il n'y avait pas d'autre alternative, chère madame, sinon je n'aurais pas pris ces décisions, soyez-en assurés. Et si je les prends, que ce soit dit pour ce secteur comme pour tous les autres, c'est parce que nous estimons en notre âme et conscience qu'elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection des Françaises et Français. Il n'y a ni pour le monde culturel, ni pour aucun acteur professionnel, aucun Français, la moindre marque de mépris. Je voudrais vous dire, madame, très honnêtement, que c'est pour moi une grande source de difficulté, parfois de souffrance, de prendre ces mesures. Je connais mes concitoyens. Le monde de la culture, chère madame, le monde de la culture, arrêtons-nous une
c'est
minute.
C'est l'âme d'un pays.
C'est l'âme d'un pays.
C'est
oui,
l'identité
madame.
De la France.
Absolument.
C'est pas un secteur comme un autre.
Absolument. Et d'ailleurs, nous revendiquons, vous le savez, l'exception culturelle. Mais l'exception culturelle, ça n'est pas l'exception sanitaire. Vous savez, le monde de la culture, les acteurs du spectacle vivant, du cinéma, avec Roselyne Bachelot, je veux te rendre un hommage particulier à Misa Culture.
Vous avez besoin de lui rendre un hommage, elle est fragilisée en ce moment.
Elle n'est pas fragilisée,
Roselyne,
elle se bat comme une lionne pour le secteur culturel. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je les ai déjà reçus à plusieurs reprises, ils le savent, on a à chaque fois qu'il y a eu un problème, ils peuvent en témoigner. Pris les mesures pour les accompagner. Et nous allons continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui
travailler.
Ils veulent d'abord, ils veulent travailler. Tout le monde veut travailler.
Mais oui.
Et c'est normal. Bon, mais encore une fois, nous ne sommes pas sortis de cette deuxième vague.
Alors, monsieur
ils
le Premier
devaient.
Ministre.
Attendez, madame, laissez-moi juste aller jusqu'au
Allez-y.
Bout. Nous avions planifié, en fonction de l'évolution de l'épidémie, un retour progressif vers l'ouverture de beaucoup d'établissements et de lieux. L'étape devait avoir lieu aujourd'hui, chère madame, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que vous m'avez invité, le 15 décembre. Il se trouve, en France, comme partout en Europe, que ces résultats ne sont pas encore rendez-vous. Donc on a encore besoin de faire des efforts. Donc on a décalé ces ouvertures. Citez-moi, madame, des pays en Europe où les théâtres, les cinémas, les lieux de culture sont ouverts.
Monsieur le Premier,
ils ont pris
question,
des mesures encore plus
une
strictes.
Une question, expliquez à nos auditeurs. Et on entend ce que vous dites sur la culture qui est l'âme d'un pays. Expliquez-nous, où est la logique quand vous voyez des files d'attente et des grands magasins bondés, alors que théâtres, musées, cinémas qui respectent les protocoles restent fermés. C'est cela l'injustice qu'ils ressentent.
Non, ce n'est pas, madame.
Qu'ils ressentent, monsieur le Premier ministre.
Oui, c'est une injustice que je peux comprendre. Nous avons rouvert les commerces le 28 novembre, avec des jauges très strictes négociées avec la profession. Et j'ai donné, ne généralisons pas, des instructions extrêmement fermes, vous avez cité les grandes surfaces, pour que le respect de ces jauges soit strictement assuré. Bon, donc, l'étape suivante, on a vu d'ailleurs un petit effet, madame, tous les commerces ont ouvert, vous avez raison, les indicateurs sanitaires s'amélioraient depuis début décembre,
on stagne. Donc on ne peut pas en faire plus. On ne peut pas en faire plus. Par contre, je tiens à vous le dire, on va accompagner ce secteur culturel. On va accompagner ce secteur. D'ores et déjà, j'ai compris, ils ont dit à la ministre, ah, vous savez, on a dû déprogrammer, on avait engagé des dépenses, on avait retenu des artistes, on avait commandé des œuvres, on ne pourra pas ouvrir. On va les indemniser.
Quel montant, monsieur le Premier
ministre ? D'ores et déjà,
cette rallonge de 35 millions d'euros supplémentaires.
Une rallonge de 35 millions sera accordée en plus au ministère de la Culture. Deuxièmement, nous allons préparer avec eux les conditions de l'avenir. On leur a fixé une clause de revoyure le 7 janvier. Ils vont y travailler avec la ministre et voir comment, si j'y insiste bien, les conditions épidémiologiques se stabilisent et s'améliorent, on pourra à ce moment-là envisager progressivement leur réouverture. Vous savez, là aussi, comparons. Il faut préparer l'avenir avec ce secteur. Ça s'appelle le plan de relance, comme tous les autres
bien
secteurs
sûr,
de l'économie.
On
va mettre 2 milliards d'euros pour la culture. L'Allemagne, pays plus grand que nous, met 1 milliard. Donc, je dis à tous les acteurs du monde de la culture, à toutes et à tous, que je suis parfaitement conscient des mesures difficiles, mais temporaires, que nous leur demandons.
Oui, mais est-ce que c'est pas
nous allons les aider non seulement à surmonter cette période, mais à préparer
Monsieur Premier ministre,
leur avenir.
N'est-ce pas un temporaire qui dure ? Autre secteur. Et ils incarnent aussi la culture et la singularité française. Les restaurants ne croient plus en la perspective d'une réouverture le 20 janvier. Ils attendent ce matin un langage de vérité. Cette date, elle est réaliste ?
Un temporaire qui dure, chère madame, mais c'est... ça s'appelle l'épidémie. Est-ce que, je vous pose une question, pardonnez-moi, on ne doit pas répondre à une question par une question. Sommes-nous le seul pays concerné par ces mesures ?
Mais
sommes-nous le seul pays, sommes-nous le seul pays où le virus, continue de circuler ?
Bien
on a même
non.
des performances, je le revendique devant vous, plutôt meilleures que les autres pays. Meilleures que l'Allemagne, désormais. Bon, alors, s'agissant des restaurateurs, là aussi, je vous ferai la même réponse que pour le secteur de la culture. C'est un crève-cœur pour moi, madame, de fermer les restaurants.
Monsieur,
c'est un crève-cœur, mais c'est nécessaire.
Hier, votre ministre de l'économie affirme qu'il ne pouvait pas.
Et l'étude du professeur Fontanet le confirmera. Donc, est-ce qu'on peut leur garantir aujourd'hui qu'on rouvrira le 20 janvier ? La réponse est non.
Donc là encore, vous allez prolonger
la
les
réponse,
aides,
nous
le
verrons,
chômage partiel.
Madame. Ça va dépendre de nous tous. Ça va dépendre de la façon dont nous aurons passé cette période de fête, dont j'ai déjà dit qu'elle pourrait être propice à une circulation accélérée du virus si nous n'étions pas collectivement responsables.
Venons-en, monsieur le Premier ministre, puisqu'un couvre-feu entre en vigueur. Mais Noël est sanctuarisé. Est-ce que vous appelez clairement les Français à se faire tester avant de se retrouver en famille ?
Alors, nous avons demandé, sur la préparation de cette échéance, un guide de recommandation au Conseil scientifique. Il est sorti hier. Bon, que dit le Conseil scientifique ? Le Conseil scientifique dit quelque chose, je pense, de très raisonnable. Il dit d'abord, si vous le pouvez, d'ailleurs c'est ce qui se pratique dans certains pays étrangers, dans beaucoup, auto-confinez-vous 8 jours avant Noël. Si vous le pouvez, ce n'est pas possible
pour tout
le monde.
Mais vous appuyez cette recommandation ?
Bien entendu, à chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables. Le Conseil scientifique, je veux dire qu'on l'appuie, a même dit, si vous pouvez ne pas amener vos enfants à l'école jeudi et vendredi, c'est la période de 8 jours, vous le faites.
Mais monsieur le Premier ministre, vous êtes le chantre, vous voulez être le chantre du bon sens. Vous imaginez une telle recommandation ? À quelques jours, on imagine l'organisation des parents, des entreprises.
Madame, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Du bon sens, vous avez parfaitement raison. On dit des recommandations. Parce que dit sur les tests ? Pour répondre, quand ça dit, il dit surtout, les tests, ils sont utiles si vous êtes symptomatique. Sinon, c'est pas un totem, le test. Vous pouvez vous faire tester le vendredi, mais être contagieux, être positif le lundi, il faudrait le faire presque tous les deux jours. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable, d'autant que nous n'aurions pas la capacité de le faire. Donc, le Conseil scientifique dit, faites-vous tester, oui, avant les fêtes, si vous avez des symptômes, et si, ajoute-t-il, vous avez été, dans la période précédant le réveillon, en contact avec des personnes nombreuses, certaines présentant des risques, etc. Et si vous allez passer Noël ou d'autres événements avec des personnes vulnérables.
Certains vous font le reproche, monsieur le Premier ministre, d'un paternalisme autoritaire, d'avoir parfois tenu un discours qui tend à infantiliser les Français en entrant dans nos foyers. Est-ce que vous le regrettez ? Vous réfléchissez ?
Oui, parce que je suis partagé, pour vous dire la vérité, à cette réponse. C'est pas ma tendance naturelle, et je crois que c'est celle de personne, d'entrer dans les foyers des gens.
Vous auriez imaginé, Jean Castex,
simplement, écoutez, je suis Premier ministre de mon pays, à un moment où celui-ci est confronté à une crise inédite et très grave. Donc je dois prendre mes responsabilités. Mes responsabilités, ça consiste, c'est pas infantilisé, excusez-moi, mais si vous m'avez suivi, vous parlez de 6 mois de fonction, dès le premier jour, j'ai, je crois, tenu un discours de responsabilisation. Cette crise sanitaire est un défi collectif pour nous. Le gouvernement doit prendre les bonnes décisions, évidemment. Mais chacune et chacun dispose d'une part pour lutter contre cette épidémie.
Mais vous, monsieur le Premier ministre, quel Premier ministre êtes-vous ? Comment vous imaginez votre rôle ? Bouclier ou bouc émissaire ?
J'essaie surtout de protéger mes concitoyens, de prendre les bonnes décisions. Bouc émissaire, si vous cherchez à me faire dire qu'effectivement, fermer un théâtre, fermer un restaurant rend impopulaire, vous avez sûrement raison.
Et vous l'assumez.
La question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est est-ce que c'est mon devoir de le faire ? Vous savez, on jugera le match à l'arrivée. Bon, pour l'instant, je suis dans le feu de l'action, sous l'autorité du président de la République. J'essaie d'associer au maximum les forces vives. J'essaie aussi de rénover les relations avec le Parlement. Nous tiendrons un débat demain et après-demain sur ces sujets. Mais je dois prendre des responsabilités pour protéger
justement,
les Français.
Monsieur
je reste
ministre,
conforme, madame, à la déclaration de politique générale
par laquelle
vous avez commencé cette
interview. C'est pour ça que je l'ai cité au début. Je trouve que ça structure bien, évidemment, votre action. Vous dites les choses difficiles, monsieur le Premier ministre, mais combien de victimes économiques ? Combien de suicides actuels ou à venir ? Combien de dépressions ? Combien de malades hors Covid non soignés ? Combien de sacrifiés dans la jeune génération ? Vous assumez l'état dans lequel va se trouver la France ?
Bien sûr, mais tout ça, c'est justement, ce sont les caractéristiques de cette crise sanitaire qui devient une crise économique, qui devient une crise sociale. Et je veux dire, excusez-moi de vous le dire, mais c'est quoi l'honneur de notre pays et le rôle du Premier ministre qui le dirige, du Président de la République ? C'est encore une fois de limiter au maximum l'impact sanitaire. Je crois que si nous nous comparons avec les autres pays, je le dis, aux Françaises, aux Français, nous n'avons pas à rougir. Et c'est aussi, vous l'avez très bien dit, de limiter l'impact économique. On prend toutes les mesures. Là aussi, si vous comparez, madame, le soutien au secteur économique que nous faisons sont parmi les plus ambitieux. La Banque de France vient de rendre une étude qui dit que c'est en France que le pouvoir d'achat des ménages aura été le mieux préservé,
monsieur
malgré
ministre,
la croissance.
Je vous parle
à
de psychologie et même de psychiatrie. C'est
absolument
la question. Est-ce qu'à un moment ou un autre, avec le président de la République, vous vous êtes posé la question et mis en balance justement ces deux bilans,
madame,
un certain pourcentage de morts
cesse,
du Covid et une telle
cesse
situation.
D'abord, je le rappelle, et là aussi c'est à l'honneur de la France, nous avons fait le choix à la rentrée dernière de rouvrir toutes nos écoles. La fermeture des écoles, en France comme ailleurs, lors du premier confinement, avait produit et aurait continué de produire des résultats catastrophiques. On a assumé le choix de le faire. Et globalement, je ne dis pas qu'il y ait quelques problèmes ici ou là, ça tient le choc. Deuxièmement, je voudrais vous parler des étudiants, pour lesquels on a dû maintenir le confinement. Là, il y a des sources de danger. La ministre Frédérique Vidal m'alerte là-dessus. Les présidents d'université, les acteurs. On a pris des dispositions. On va essayer de faire rentrer, comme on dit, en présentiel, dès janvier, les étudiants les plus fragiles, les plus éloignés. J'ai augmenté, chère madame, très concrètement, les vacations de psychologues, d'assistantes sociales. On a donné une somme aux étudiants un peu plus chevronnés pour s'occuper des étudiants en difficulté ou des étudiants décrocheurs. Tout ça, nous le faisons. Olivier Véran, autre ministre qui se bat sur tous les fronts.
Qui se bat et qui freine parfois sur certaines décisions, monsieur le Premier ministre.
Qui freine quoi ?
Sur l'ouverture des musées, des théâtres. En tenant compte de la situation épidémique.
La seule chose que freine efficacement, monsieur Véran, c'est la progression de l'épidémie. Bon, donc je vous disais, monsieur Véran travaille avec moi sur l'accroissement des dispositifs de santé mentale, pour en revenir à votre question. Donc, bien entendu, nous sommes parfaitement conscients, sensibles et à l'action sur toutes les conséquences psychologiques, vous avez même dit psychiatriques de cette crise. Cette crise, elle est effectivement dévastatrice et c'est pourquoi nous sommes mobilisés matin, midi et soir.
Bon, et vous dites que vous vous occupez évidemment de la situation et que vous anticipez, monsieur le Premier ministre. D'où ma question. Qu'est-ce qui nous garantit Qu'après, il faut bien le dire, le fiasco des masques et des tests, les vaccins ne seront pas le troisième fiasco.
Mais ça, ce sont des formules, madame. Le fiasco des tests, vous avez dit, je peux répondre, je suis Premier ministre. La France est le pays qui a le plus testé d'Europe. Certes, il y a eu des moments, et ça peut revenir, où il y a eu des listes d'attente qui sont tout à fait regrettables. Vous avez raison. Mais, gros, au total, j'insiste, nous devons nous améliorer sur les tests. Ça, je vous le dis tout de suite, et ça va être un des axes de la stratégie. Les vaccins. Les vaccins, nous nous préparons. J'ai expliqué déjà aux Françaises et aux Français. Nous avons une stratégie. Ces vaccins ont été achetés à l'initiative de la France au niveau européen pour faire diminuer les prix, pour augmenter nos chances d'obtenir toutes les doses qui sont nécessaires. Et nous allons débuter. Et nous allons débuter dès que les autorités sanitaires compétentes se seront prononcées pour diffuser les vaccins correspondants au début de l'année 2021. Nous avons une autorité qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, autorité scientifique indépendante, qui nous dira les priorités des publics à vacciner. Le gouvernement s'occupe de tous les aspects logistiques. Et surtout, chère madame, et surtout, nous devons, c'est ma préoccupation forte au moment où nous nous parlons, veiller à faire comprendre que toutes les précautions sont prises dans la plus grande transparence. Pour
transparence,
que la plus
c'est
grande
le maître
transparence,
mot, évidemment.
C'est le maître mot,
mais, monsieur
pour que les Français puissent se faire vacciner en toute sécurité.
Est-ce que vous pouvez affirmer ce matin que tout est prêt pour que la France ne connaisse ni retard, ni manque en matière de doses de vaccins? Est-ce que vous pouvez tenir ce matin, j'allais dire, cette promesse et l'affirmer haut et fort?
Je peux le dire à votre micro, chère madame. Nous dépendons évidemment des approvisionnements en vaccins qu'achète l'Europe, mais si tout se déroule comme nous l'avons contractuellement prévu, nous nous mettons en état de ne manquer ni de doses vaccinales, ni de logistique pour assurer leur diffusion selon les priorités fixées par la Haute Autorité en Santé.
Le retard du laboratoire Sanofi ne va pas venir peser sur notre situation et tout cela.
Ah, madame, nous avons au niveau européen passé des commandes avec d'autres laboratoires qui nous permettent de vacciner largement, de manière suffisante, la population française.
Monsieur le Premier ministre, on a également envie de vous entendre ce matin sur un domaine éminemment régalien. Il y a la sécurité, et j'ai dit tout à l'heure ce que vous avez prononcé lors de votre discours de politique générale. C'est fort de dire « je veux assurer la sécurité des Français ». Les paroles du président de la République, reprenant dans une réponse certes l'expression « violence policière ». Ça fait des dégâts au sein de la police ?
La sécurité, chère madame, est et demeure la priorité du président de la République et du gouvernement. Les policiers, puisque vous parlez d'eux, auxquels je veux rendre hommage, sont les premières victimes des violences, de par la profession qu'ils exercent. Toutes les Françaises et tous les Français le savent. Et donc le devoir du gouvernement de la République est d'assurer la protection et les moyens de la police de la République. Ce qui me rend parfaitement à l'aise, mais enfin, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, pour dire si certains membres des forces de sécurité intérieure recourent à la violence dans un cadre violant la loi républicaine et leur code de déontologie, évidemment, nous serons inflexibles face à ces comportements. Et nous le sommes. Mais de là, comme certains, parce que c'est le sous-entendu de tout ça, soyons clairs, à chercher à jeter, comme on dit, l'opprobre sur l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, alors là, je dis, c'est une position totalement scandaleuse et que je récuse.
C'est clair.
Et nous allons, allons jusqu'au bout, et nous allons, il va y avoir le Beauvau de la sécurité annoncée par le
président. Vous savez ce que vous disent certains, monsieur le Premier ministre, encore un comité Théodule, alors qu'on sait déjà comment agir.
Madame, on ne peut pas nous dire, il y a un sujet, comment lutter contre les violences. Vous dites, ici ou là, il y a des violences policières, et dire, on ne fait rien. Non, on va. C'est le rôle du gouvernement. Très calmement, mettre tous les sujets sur la table et trouver des solutions. Mais, que ce soit très clair, le cap, l'objectif, il est simple, faire reculer la violence dans la société. Que ceux qui sont hors la loi soient poursuivis et sanctionnés. C'est très simple. C'est compliqué, mais L'objectif est simple. Et ce n'est pas que des paroles. Oui, vous êtes Premier ministre depuis 6 mois. Je rappelle quand même qu'il y a un texte, il y a un texte en discussion au Parlement sur les polices municipales, sur la sécurité dite globale. Oui, c'est en cours. Bon. Nous venons de déposer un texte sur les principes républicains. Pendant ce quinquennat, nous aurons augmenté de 10 000 les effectifs des forces de sécurité intérieure, avec un ministre de l'Intérieur extrêmement déterminé. Ma plus-value, si vous me permettez, dans tout ça, c'est ce que ressentent beaucoup de nos concitoyens. Si l'action de la police n'est pas suivie par la justice...
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Quand la justice ne suit pas, monsieur le Premier ministre, quand les peines ne sont pas appliquées...
Quand la justice ne suit pas, madame, c'est pas parce que la justice est incompétente, c'est parce que, comme je l'ai expliqué pendant trop d'années, nous avons privé la justice des moyens d'agir. Regardez là
et
aussi,
parfois,
regardez là aussi
tout ce qui se passe dans les pays étrangers. Est-ce que ce n'est pas par idéologie, parfois ?
Nous avons donc décidé, ça c'est des faits, le budget de la nation pour 2021 va être voté en cette fin d'année et il prévoit une augmentation de 8% du budget de la justice. Ça ne s'était pas produit depuis des décennies et je vous l'annonce à ce micro, nous continuerons pour 2022.
Monsieur
donc
le
nous agissons, madame.
Oui. Vous avez cité...
Calmement, mais fermement, sur tous les fronts, faire reculer la violence, ressouder le pacte social, parce que il faut bien faire comprendre que notre politique, elle est globale, madame. Pardonnez-moi de vous le dire. Bien sûr, je revendique devant vous la fermeté et l'autorité de l'État. Je les revendique, je les assume et je les mets en œuvre. Mais la République, c'est aussi une promesse.
Mais c'est important. Alors attendez, monsieur le Premier, c'est très important ce que vous dites. Vous dites « La République est une promesse ». Sur le projet de loi confortant les principes républicains, la députée Aurore Berger travaille sur un amendement proposant l'interdiction du voile pour les fillettes. Pourquoi vous êtes opposé à un tel amendement ?
Parce que je pense que ce n'est pas l'objectif de ce texte, de rouvrir le débat sur le voile. Les députés sont parfaitement libres de déposer tous les amendements. Nous, notre sujet dans ce texte de loi, c'est d'abord de lutter contre le séparatisme, contre l'islamisme radical. Donc, toutes les manifestations de l'islamisme radical doivent être combattues.
Une remarque de sémantique, je le ferai très rarement, monsieur le Premier ministre, mais l'islamisme est forcément radical.
Ah non. Enfin, en tout
l'islamisme
cas,
l'islamisme est une idéologie, c'est
clair.
Forcément radical.
L'islamisme politique est radical. Voilà. C'est parce que pourquoi j'insiste auprès de vous ? Parce que je ne veux pas, et c'est ce que cherchent à faire nos adversaires, qu'il y ait un amalgame entre l'islam et l'islamisme radical. C'est pour ça que je tiens, madame, aux deux mots, à l'islamisme radical, à l'islamisme politique, parce que je le distingue complètement de la religion qu'est l'islam. Et il y a d'ailleurs beaucoup de musulmans de France qui pourront pratiquer librement leur religion grâce à la loi.
Mais monsieur le Premier ministre, sur cet amendement, la question n'est pas de croire ou de ne pas croire. C'est pour certains une forme de violence et de maltraitance pour des petites filles. C'est pour ça que je vous demande véritablement votre avis, au-delà de l'amendement, sur le sujet.
Ah ben sur le sujet, évidemment, chère madame. Évidemment, et nous discuterons avec la députée des voies et moyens de faire cesser cela. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous devons être clairs sur les objectifs poursuivis. Et l'objectif poursuivi, c'est de faire cesser partout sur le territoire national des pratiques qui visent à fracturer la communauté nationale, qui visent à recourir à la violence, au lavage de cerveau et finalement, au bout du bout, à la haine contre la République.
Deux questions pour conclure, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Emmanuel Macron de se représenter en 2022 ?
Il a dit lui-même de prendre des textes difficiles, mais le président de la République, je le connais bien désormais, est un homme courageux, qui sait prendre les décisions qu'il faut. L'heure n'est peut-être pas, si vous me le permettez, de se prononcer sur qui sera candidat ou pas en 2022. Restons au temps présent, et moi je trouve que c'est un très bon président de la République, dans les temps présents et peut-être dans les temps de demain.
Bon, voilà la réponse. On va conclure puisque je vois que Nicolas Canteloup nous a rejoint dans ce studio, monsieur le Premier ministre. Il y a une tradition, vous le savez évidemment, au bout de 6 mois d'exercice à Matignon, c'est de planter un arbre dans les jardins. Alors, Édouard Philippe, je crois qu'il avait choisi un pommier normand. Et vous, c'est un frêne.
Oui, c'est un frêne.
Pourquoi cet arbre ? De quoi il est le symbole à vos yeux ?
C'est un frêne parce que c'est un arbre qui prospère dans mes Pyrénées orientales dans le village qui est si cher à mon cœur, où j'ai rencontré ma femme. C'est un arbre vigoureux qui tient bien au feu, vous voyez ?
Hein ?
Ça peut être utile par les temps qui courent. Voilà, c'est un bel arbre, le frêne. C'est un arbre vigoureux.
N'est-ce pas ? Merci en tout cas, monsieur le Premier ministre.
Merci
de nous avoir accordé cet entretien exceptionnel. Et en ce jour très particulier, évidemment, du 15 décembre, avec tous les changements à venir pour les Français. Merci à vous.
Merci.
Merci Sonia Mabrouk. Et bonjour Nicolas Canteloup.
Oui, bonjour monsieur Béliard. Est-ce que j'ai une petite faveur à vous demander, est-ce que je peux rester pendant le moment de monsieur Canteloup ?
Avec très grand plaisir, monsieur le Premier ministre, la revue de presse dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h48 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et son invité, Jean Castex.
Oui, tout le monde est là. Très bien, alors, on y va. Bon, eh bien, mes lunettes. Je prends mes lunettes. J'avais pas mis un pantalon, moi, ce matin.
Attendez, si vous avez perdu vos lunettes, monsieur le Premier ministre, on a justement quelqu'un qui a un petit message pour vous.
Oui, bonjour, c'est Céline Floulou.
Il est malade.
Pour les gens comme vous, monsieur le Premier ministre, j'écris Chin Chin à Floulou. Si vous avez perdu vos lunettes, une deuxième paire est déjà sur votre nez. C'est le nouveau service à Floulou. Mais c'est une bonne nouvelle pour tous ceux à qui c'est arrivé d'avoir perdu les lunettes sur eux. Vous n'êtes ni myope, ni presbyte, ni astigmate. Vous êtes juste concon.
Non.
Alors, je lance pour vous un nouveau service. Après Chichin, je lance Concon d'Afflelou.
Ah bah écoutez, bon, allez stop, merci Alain Afflelou. Bon, reprenez monsieur Castex,
merci.
S'il vous plaît.
Je tiens à remercier de façon républicaine monsieur Afflelou. Alors, nous y allons.
Oui.
Oui, bonjour monsieur le Premier ministre. Merci de faire l'honneur d'Europe 1 d'être ce matin dans les studios d'Europe 1. Pourquoi un référendum sur le climat ? Jean Castex répondait. Écoutez, chère madame Salamé, pardon, Al-Kabash, non
Mabrouk, Mabrouk.
Ah, pardon. Oui, non, mais vous savez, sans mes lunettes,
ah,
forcément.
Ah, oui, bien sûr.
Alors, c'est un sujet formidable, car un référendum, c'est totalement innovant, c'est important. Oui, mais quand ce référendum ? Écoutez, entre la semaine prochaine et 25 ans, voilà. Entre le 15 février et 2034. Ça vous donne une fourchette. Oui, mais avant la fin du quinquennat. Oula, 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 oula. La fin du quinquennat, c'est un peu vite, en besogne. Si possible, oui.
Alors, la culture Roselyne Bachelot s'évertue à rouvrir les théâtres. Où en êtes-vous, Jean Castex ? Où en êtes-vous ?
Écoutez, je tiens à rendre hommage à Roselyne. Roselyne qui nous a quittés. Roselyne, oui, un hommage est nécessaire. Elle s'est battue comme une lionne. Elle est toute griffée de partout, vous la verriez. Elle se bat et elle perd à chaque fois, la pauvrette. Non, je tiens à vous dire, est-ce que vous pouvez, madame, oui, chère madame, est-ce que vous pouvez me citer un théâtre ouvert en Europe? Un théâtre ouvert.
Mais non, mais écoutez, même les théâtres des gens en situation normale en Europe, je ne les connais pas. Théâtre allemand, théâtre suisse. Mais les magasins, où est la logique, Jean Castex? Tout le monde vous le dit, où est la logique des magasins bondés, des théâtres fermés?
Mais attention, je comprends. J'entends la colère. J'entends, je comprends. Je suis un homme humain. Je peux comprendre, mais j'ai ouvert les grands magasins sous des conditions très strictes, des conditions drastiques, de comptage des personnes à l'intérieur des magasins. Ils sont bondés, oui, mais selon des règles strictes, pas plus de 8 personnes autour d'une poupée Barbie, pas plus de 64 personnes autour d'une PlayStation 5, et pas plus de 122 personnes par marche d'escalator.
Alors, ce matin, est-ce que vous pouvez vous engager, monsieur le Premier ministre? C'est un moment solennel, c'est un moment de radio, c'est important, je sais poser les choses. Est-ce que vous pouvez vous engager face à moi, droit dans les yeux? Est-ce que la France sera prête pour le vaccin?
Écoutez, chère madame, vous allez vite en besogne. Vous êtes très direct. Je suis très à l'aise pour vous répondre sur ce sujet. Je peux, oui, vous le dire, m'engager, oui, je vous le dis. Bon, le faire, c'est une autre histoire.
Non, mais la sécurité des policiers, la sécurité française, c'est un sujet important.
Oui, ça, la sécurité, c'est un sujet essentiel. Essentiel comme tous les sujets dont j'ai parlé depuis le début. Tout est essentiel. Le climat est essentiel. Essentiel. La laïcité, c'est essentiel. La laïcité, oui, la laïcité, c'est essentiel. Je répète tout deux fois pour me persuader moi-même que ça l'est. Là, les restaurateurs, c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Tout est essentiel. Même, je me persuade, oui, parce que moi-même, il faut que je me persuade d'être essentiel. Vous comprenez? La culture, c'est SS...
Non, pas la culture.
Monsieur Castex, est-ce que tout cela va empêcher le président de la République ou pas de se présenter en 2022? Jean Castex, droit dans les yeux.
Écoutez, là aussi, monsieur Vandel, bonjour. Si je, ça me permet de ne peut-être pas répondre à la question, votre arrivée dans ma vie. Non, là aussi, je suis très à l'aise pour vous répondre et je vais peut-être vous surprendre en vous disant que, oui, je prends des risques ce matin sur votre antenne. Puisque vous voulez un scoop, je vous le donne. Oui, je peux dire ce que je pense. En toute transparence, je pense que Emmanuel Macron, bon, je sais que je vais être, mais bon, j'assume, Emmanuel Macron est un très bon président.
Merci Jean Castex.
Allez, on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, pour le rappel de l'actu.
Oui, bonjour. L'info du jour, c'est la ruée des Français sur les tests de confort avant les fêtes. Enfin, d'ailleurs, on pourrait arrêter d'appeler ça des tests de confort. À quel moment c'est confortable de se faire enfoncer un coton-tige de 30 cm dans le nez par un inconnu habillé en tenue d'abattoir? Non, mais c'est vrai, on a parlé avec Philippe Dandel. Les mots ont un sens à un moment donné.
Merci Mathieu. Il a passé la journée d'hier avec les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, comment s'est passée cette rencontre?
Écoutez, formidablement bien. Formidablement bien. Écoutez, oui, j'étais hier devant ces charcutiers, ces tourneurs fraiseurs, ces peintres en bâtiment qui m'apprenaient. Oui, à faire de la politique et à prendre des décisions. Je me suis régalé.
C'est bizarre, mais on sent quand même poindre un petit peu de mépris.
Mais non, mais Madame Julie, mais je vous jure que non. J'ai tellement pris une claque devant ces experts que je me suis permis de demander à Josiane. Oui, j'ai demandé à Josiane, shampouineuse à Dijon. Je lui ai dit, Josie, mais aidez-moi aussi. Aidez-moi à établir un plan d'étalonnage de la dette française indexé sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Mais qui, franchement, mais qui, je vous prends témoin, mais qu'ils étaient idiots! Ces anciens présidents ont toujours demandé leur avis, leur conseil à Jacques Attali, alors qu'il fallait juste. Je fallait juste demander à Jacques et à Nathalie!
Eh ben voilà! Alors. Vous. Ah, mais non, bah allons-y!
Je m'auto-applaudis, j'aime ça.
Monsieur le Président, vous avez néanmoins annoncé un référendum pour inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution. Mais attention, si je puis me permettre, car De Gaulle avait dû partir après un référendum perdu.
Oui, le général De Gaulle avait dû partir après ce référendum où on avait répondu non. Mais on n'est pas idiots avec Jean Castex. On va bosser la question, on va trouver un truc, une question. Je ne sais pas, par exemple, une question qui me vient tout de suite. Oui. Est-ce que vous voulez que je sauve les petits bébés pandas qui meurent?
Ah bah, a priori, les gens vont dire oui.
Voilà, mais vous voyez que je suis quand même moins con que De Gaulle.
On en reste là, sur ce mot. Merci, Monsieur le Président. Avec Roselyne Bachelot, on va parler maintenant des nouvelles restrictions qui touchent le monde de la culture. Comme prévu, les théâtres ne rouvriront pas aujourd'hui. Bonjour, Madame Bachelot.
Oui, oui, oui. Bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliard. Oui, Monsieur Vendée. Alors oui, on ferme les théâtres, mais c'est de votre faute, les Français. Parce que, mais oui, ils se sont relâchés. Qu'est-ce qui vous a pris, les Français, de vous entasser dans les magasins?
C'est le gouvernement qui nous a demandé de consommer pour relancer l'économie.
Mais enfin, mais pourquoi vous l'avez fait? Vous savez bien que tout ce qu'on dit au gouvernement est à prendre avec des pincettes. Vous avez quand même remarqué qu'on ne maîtrise rien depuis le début. Vous voyez bien qu'on est aux fraises.
Eh ben, dites donc, quel bilan. Merci Roselyne Bachelot, merci. Lors des dernières manifestations, le dispositif policier a empêché tout débordement. Oh, le personnage qui s'installe, oui, allez. Force est restée à la loi, c'est autocongratulé Gérald Darmanin. On va en parler avec Gérard Collomb.
Oui, oui, écoutez, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oui, force est restée à la loi. C'est facile, l'autosatisfaction. Il y avait 5000 manifestants et presque 5000 CRS. Chaque manifestant avait son CRS.
Oui, oui, si on veut, allez.
Mais oui, mais alors, à partir de chiffres tels que je vous les donne, ce n'est plus une manifestation, c'est un concours de danse de couple. C'est un thé dansant. C'est un pas de deux. Un policier manifestant. C'est même carrément danse avec les stars.
Carrément.
Sur un passo double, le Black Bloc Kevin et son CRS, le lieutenant Jean-Claude Torgnol. Bon, vous voyez, ça ne ressemble à rien, c'est n'importe quoi avec Darmanin.
Eh bien, merci Gérard Collomb.
Ah, bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian. Et Arnaud Demange, vous retrouvez, je le rappelle, hein, parce que certains l'ont écouté, certains l'ont raté, d'autres vont vouloir le réécouter, ouais. La revue de presse sur Europe1.fr. Philippe Vandel est avec nous, il reprend son souffle, ouais, Culture Média, la matinée continue, de 9h à 11h.
Salutations à Jean-Claude Torgnol, notre info média du jour, lieutenant, pardon. On va parler théâtre, mais théâtre à la télé, puisque Roselyne Bachelot l'a dit, les salles sont fermées pour au moins 3 semaines, et France 2 va diffuser 3 pièces pendant les fêtes. La première, c'est le Canard à l'Orange, on sera avec son metteur en scène Nicolas Briançon, et Sylvain Merle, journaliste spécialisé théâtre au Parisien. Grande soirée ce soir, Plus belle la vie sur France 3, avec un doc et un épisode inédit. Nous serons avec la productrice Géraldine Gendre et la comédienne Anne Dessis, qui est là depuis le 6e épisode. Elle était là pour quelques jours, ça fait 16 ans. Et puis le chanteur Calogero, qui vient de sortir un nouvel album, ça s'appelle Centre-ville, déjà numéro 1 des ventes.
Culture Média, la matinée continue avec Philippe Vandel jusqu'à 11h sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.